Chapitre 3. Le grand inquisiteur était en retard. Le contrôle du trafic de Vatican Airspace fit passer son VEM par l'espace aérien proche du spatioport normalement fermé, interdit toute circulation spatioportée à l'est du Vatican et maintint un cargo robot de 30 000 tonnes en approche orbitale finale jusqu'à ce que la voiture du GI ait franchi le coin sud-est de la grille d'atterrissage. Dans le VEM au blindage spécial, le grand inquisiteur, son éminence le cardinal John Domenico Mustafa, ne regardait ni par la fenêtre ni sur le moniteur vidéo la belle vue qu'offrait le Vatican et ses murs rosis par la lumière matinale, où l'autoroute animée à 20 voies appelée Ponte Vittorio Emanuele, scintillant au-dessous d'eux comme une visière à cause du soleil se reflétant sur les pare-brises et les dessus des bulles. Le grand inquisiteur ne s'intéressait qu'aux informations de dernière heure de ses services secrets qui défilaient sur son persoc. Lorsque le dernier paragraphe eut été affiché, confié à sa mémoire et effacé, le grand inquisiteur dit à son adjoint, le père Farrell, « Et pas d'autre entretien avec le Mercantilus ». L'homme mince aux yeux gris ne souriait jamais, mais une contraction d'un muscle de sa joue transmit un semblant d'amusement au cardinal. « Aucun. Vous en êtes certain ?»«
Absolument. »
Le grand inquisiteur s'appuya sur les coussins du VEM et se permit un bref sourire. Le Mercantilus n'avait effectué qu'une unique tentative, précoce et désastreuse, auprès de l'un des candidats à la papauté, le sondage de Lourdus Ami. Et l'inquisiteur avait écouté l'enregistrement complet de cette réunion. Le cardinal s'accorda encore quelques secondes de sourire. Le secrétaire d'État du Vatican avait raison de croire que sa salle de conférence était protégée contre les écoutes indiscrètes, à l'épreuve totale des bretelles, capteurs, micros, détecteurs d'ondes et de salves. Tout appareil d'enregistrement introduit dans la pièce, même implanté dans l'un des participants, aurait été détecté et découvert. Toute tentative de captage par faisceau étroit aurait été perçue et neutralisée. Obtenir l'enregistrement visuel et auditif complet de cette réunion avait été l'un des plus beaux moments de la vie du grand inquisiteur. Monsignor Luca Oddi était entré à l'hôpital du Vatican 2 ans auparavant pour une opération de routine, un remplacement des yeux, des oreilles et du cœur. Le père Farrell rencontra le chirurgien et expliqua que le pouvoir tout entier du Saint-Office était prêt à s'abattre sur la tête du pauvre médecin s'il n'implantait pas certains appareils dernier cri dans le corps du Monsignor. Le chirurgien obéit et mourut peu après de sa vraie mort sans résurrection possible, dans un incompréhensible accident de voiture au-dessus de la Grande Dépression Nord. Monsignor Luca Oddi n'avait aucun micro mécanique ou électronique implanté dans son organisme, mais 7 nano-enregistreurs totalement biologiques branchés sur son nerf optique. 4 nano-enregistreurs auditifs étaient reliés à son système nerveux auditif. Ces bio-enregistreurs ne transmettaient rien à l'intérieur du corps, mais enregistraient les données sous forme chimique et les envoyaient par la circulation sanguine au transmetteur par salve, totalement organique aussi, inséré dans le ventricule gauche de Monsignor Oddi. 10 minutes après que ce dernier eut quitté la zone de sécurité du bureau de Lourdus Ami, le transmetteur avait envoyé par salve un enregistrement comprimé de la réunion à l'un des transpondeurs relais voisins du grand inquisiteur. Ce n'était pas une écoute en temps réel de ce qui se disait dans ces pièces à l'épreuve des micros clandestins, fait qui ennuyait encore le cardinal Mustafa, mais la chose en était aussi proche que la technologie actuelle le permettait.
« Isozaki a peur, » dit le père Farrell. « Il pense que… »
Le grand inquisiteur leva un doigt. Farrell se tut au milieu de sa phrase.
Vous ne savez pas s'il a peur. Vous ne savez pas ce qu'il pense. Vous pouvez seulement savoir ce qu'il dit ou fait et en déduire ses pensées et ses réactions. Martin, il ne faut jamais échafauder sur ses ennemis des suppositions impossibles à corroborer. L'autosatisfaction peut se révéler fatale.
Le père Farrell baissa la tête en signe d'acquiescement et de soumission. Le VEM se posa sur l'aire d'atterrissage du château Saint-Ange. Le grand inquisiteur franchit le sas et descendit la rampe si rapidement que Farrell dut trotter pour rattraper son patron. Des commandos de la sécurité, vêtus de l'étoffe par balles rouges du Saint-Office, se préparèrent à l'escorter, mais le cardinal les éloigna d'un geste. Il voulait terminer sa conversation avec le père Farrell. Il posa la main sur le bras gauche de son adjoint, non par affection, mais pour fermer les circuits de conduction osseuse permettant de sous-vocaliser, et dit
« Isozaki et les dirigeants du Mercantilus ne sont pas effrayés. Si l'Urdusami avait voulu les éliminer, ils seraient déjà morts. Isozaki devait transmettre son message de soutien au cardinal et il l'a fait. Ce sont les militaires de la Pax qui ont peur. »
Farrell fronça les sourcils et sous-vocalisa sur le circuit osseux.
« Les militaires? Mais ils n'ont pas encore sorti leurs cartes. Ils n'ont rien fait de déloyal. » « Précisément. Le Mercantilus a effectué sa démarche et sait que l'Urdusami se tournera vers eux quand l'heure sera venue. Cela fait des années que la flotte de la Pax et les autres militaires ont une peur panique de faire le mauvais choix. Aujourd'hui, ils sont terrifiés à l'idée d'avoir attendu trop longtemps. »
Farrell acquiesça d'un signe de tête. Ils avaient emprunté un puits antigrave qui s'enfonçait dans les entrailles de pierre du château Saint-Ange. Maintenant, ils passaient devant des gardes armés et traversaient des champs de force mortelle dans un sombre corridor. Deux commandos vêtus de rouge se tenaient au garde-à-vous, fusils à énergie levée, devant une porte sans inscription.
« Laissez-nous !» dit le grand inquisiteur et il posa la paume sur la plaque lectrice d'identité.
Le panneau d'acier glissa vers le plafond et disparut. Le couloir n'avait été que pierre et pénombre. Dans la pièce, tout était lumière éclatante, instruments et surfaces stériles. Des techniciens levèrent les yeux lorsque le grand inquisiteur et Farrell entrèrent. Des portes carrées, semblables aux armoires-tiroirs qui servaient à ranger les cadavres dans une ancienne morgue, occupait tout un mur. L'une de ces portes était ouverte et un homme nu reposait sur une civière que l'on avait sortie du compartiment réfrigéré. Le grand inquisiteur et Farrell l'encadrèrent.
« Il se ranime bien, » dit le technicien debout devant la console. « Nous le maintenons juste en dessous du seuil de la conscience. Nous pouvons le réveiller en quelques secondes. »
« Combien de temps a duré son dernier sommeil froid ?»
16 mois locaux, 13,5 standards.
Réveillez-le,
ordonna le grand inquisiteur. Les paupières de l'homme battirent. Il était petit, musclé mais trapu, et il n'y avait aucune marque de coup sur son corps. Ses poignets et ses chevilles étaient liés par du ruban adhésif. On avait implanté une dérivation corticale derrière son oreille gauche, et un faisceau presque invisible de microfibres la reliait à la console. L'homme couché sur la civière gémit.
« Caporal Bassin Ki, » dit le grand inquisiteur. « Vous m'entendez ?»
Ki émit un son presque inintelligible. Le grand inquisiteur hocha la tête d'un air satisfait.
« Caporal Ki, » reprit-il aimablement sur le ton de la conversation, « pouvons-nous reprendre où nous en étions la dernière fois ?»«
Combien de temps ?»
marmonna Ki entre ses lèvres sèches, raidies.
Depuis combien de temps suis-je ?
Le père Farrell était allé se planter devant la console du technicien. Il fit un signe de tête au grand inquisiteur. Ignorant la question du caporal, le cardinal John Domenico Mustafa demanda d'une voix douce :
Pourquoi avez-vous laissé la jeune fille partir ?
Le caporal Kir ouvrit les yeux, clignant des paupières comme si la lumière lui faisait mal. Puis les referma. Il ne dit rien. Le grand inquisiteur hocha la tête en regardant son adjoint. Le père Farrell passa la main devant les icônes sur la disque-clé de la console, mais n'en activa encore aucune.
Je vous repose la question. Pourquoi avez-vous laissé la jeune fille et ses alliés criminels s'échapper du bosquet de Dieu ? Pour qui travaillait de Soya ? Quelle était votre motivation ?
Le caporal Key était couché sur le dos, les poings serrés, les yeux fermés.
Il ne répondit pas.
Le grand inquisiteur inclina très légèrement la tête vers la gauche et le père Farrell agita deux doigts devant l'une des icônes de la console. Ces icônes semblaient aussi abstraites que hiéroglyphiques à un observateur non initié, mais Farrell les connaissait bien. Celle qu'il avait choisie, il faudrait la traduire par « testicule écrasé ». Sur la civière, le caporal Key se convulsa et ouvrit la bouche pour hurler, mais les inhibiteurs neuraux bloquèrent cette réaction. Les mâchoires du petit homme s'ouvrirent aussi grandes que possible, et le père Farrell entendit les muscles et les tendons craquer. Le grand inquisiteur hocha la tête, et Farrell ôta les doigts de la zone d'activation de l'icône. Le corps du caporal se tordait sur la civière, la tension faisait onduler les muscles de son ventre.
« Ce n'est qu'une douleur virtuelle, caporal Key, »
chuchota le grand inquisiteur.
« Une illusion neurale. Votre corps ne portera aucune marque. »
Sur la dalle, Key se tendit pour lever la tête et regarder son corps, mais la bande adhésive maintenait sa tête en place.
« Ou peut-être pas, »
poursuivit le cardinal.
« Peut-être que cette fois... » Nous aurons recours aux méthodes plus anciennes, moins raffinées.
Il se rapprocha un peu afin que l'homme puisse voir son visage.
Je vous redemande, pourquoi est-ce que vous et le père de Soya avez laissé la jeune fille partir du bosquet de Dieu? Pourquoi avez-vous attaqué votre coéquipière, Radamante Nemes?
La bouche du caporal Key se retroussa, révélant ses dents jusqu'aux molaires.
« Allez-vous faire foutre !»
réussit-il à dire, les mâchoires tendues pour surmonter le tremblement qui le suppliciait.
« Évidemment, »
répliqua le grand inquisiteur, et il fit un signe de tête au père Farrell. L'icône que le prêtre activa pouvait être traduite par « fil de fer brûlant derrière l'œil droit ». Le caporal Key ouvrit la bouche en un hurlement silencieux.
« Encore une fois, »
répéta doucement le grand inquisiteur.
« Dites-nous. »«
Excusez-moi, votre éminence, »
dit le père Farrell en jetant un coup d'œil à son père Soc.
« Mais la messe du conclave commence dans trois quarts d'heure. »
Le grand inquisiteur agita les doigts.
« Nous avons le temps, Martin. Nous avons le temps. »
Il toucha le bras de Key.
« Répondez-nous, caporal, et vous serez baigné, habillé et relâché. En commettant cette trahison, vous avez péché contre votre Église et votre Seigneur. Mais l'essence de l'Église, c'est la miséricorde. Expliquez-moi pourquoi vous avez trahi, et tout sera pardonné. »
Chose étonnante, le caporal Key, les muscles ondulant toujours après le choc, éclata de rire.
« Allez-vous faire foutre ! Vous m'avez déjà obligé à dire tout ce que je sais sous sérum de vérité. Vous savez pourquoi nous avons tué cette putain de chose et laissé partir l'enfant ? Et vous ne me relâcherez jamais ! Allez-vous faire foutre ! »
Le grand inquisiteur haussa les épaules et recula. Jetant un coup d'œil à son père Soc en or, il dit d'une voix douce,
« Nous avons le temps, beaucoup de temps. »
Il fit un signe de tête au père Farrell. L'icône qui ressemblait à des parenthèses sur la console de douleur virtuelle signifiait « l'âme brûlante enfoncée dans l'œsophage ». D'un geste gracieux, le père Farrell l'activa. Le père capitaine Federico de Soya était revenu à la vie sur Passem et avait passé deux semaines prisonnier de fait dans le presbytère des Légionnaires du Christ au Vatican. C'était un bâtiment confortable et tranquille. Le petit chapelain dodu de la résurrection qui s'occupait de lui, le père Baggio, se montrait bienveillant et plein de sollicitude. De Soya détestait cet endroit et ce prêtre. Personne n'interdit au père capitaine de sortir du presbytère des légionnaires, mais on lui fit comprendre qu'il devait rester là jusqu'à ce qu'il soit convoqué. Lorsqu'au bout d'une semaine, De Soya eut repris des forces et se fut réorienté, On le fit venir au quartier général de la flotte où il s'entretint avec l'amiral Wu et son patron, l'amiral Marusine. Durant cette entrevue, le père capitaine de Soya se contenta de saluer, se tenir au repos et écouter. L'amiral Marusine expliqua qu'une révision de son procès en cour martiale, qui s'était déroulé 4 ans plus tôt, avait révélé plusieurs irrégularités et inconséquences dans les arguments de l'accusation. Une étude plus approfondie de la situation avait justifié une réforme des décisions de la cour martiale. Le père de Soya devait immédiatement réintégrer la flotte de la Pax avec son ex-rang de capitaine. On s'était arrangé pour lui retrouver un astronef militaire. « Le Balthazar, votre vieux vaisseau torche, est en cale sèche depuis 1 an, » dit l'amiral Marusine. « Pour une remise à jour totale qu'il a élevée aux normes d'un escorteur archange. Votre remplaçante, la mère capitaine Stone, a fait du bon travail en tant que commandant. »«
Je n'en doute pas, amiral, » dit de Soya. Stone était un excellent second. Je suis sûr qu'elle a fait un bon capitaine. »
L'amiral Marusine hocha la tête d'un air absent tout en parcourant les feuilles en vélin de son carnet de notes.
« Oui, oui, » dit-il. « Si bon en fait que nous l'avons recommandé pour le commandement d'un des nouveaux archanges de classe planétaire. Nous pensons aussi à un archange pour vous, père capitaine. »
De Soya cligna des yeux et essaya de ne pas réagir. « Le Raphaël, amiral ?» Celui-ci leva les yeux, un léger sourire flottait sur son visage bronzé et ridé.
« Oui, le Raphaël, mais pas celui que vous avez commandé. Nous avons réaffecté ce prototype au service courrier et l'avons rebaptisé. Le nouvel archange Raphaël est... Père capitaine, avez-vous entendu parler des archanges classe planète ?»«
Non, amiral, pas vraiment. »
Il recueillait parfois des rumeurs sur sa planète désertique, lorsque les mineurs de bauxite parlaient fort dans l'unique cantine de la ville.
« 4 années standard, » murmura l'amiral en secouant la tête.
Ses cheveux blancs étaient peignés derrière ses oreilles.
« Mettez rapidement Federico au courant, amiral. »
Margaret Wu acquiesça d'un signe de tête et toucha la disque d'une console tactique standard encastrée dans le mur. L'hologramme d'un astronef apparut entre elle et de Soya. Le père capitaine vit aussitôt que ce vaisseau était plus grand, mieux profilé, plus raffiné et plus mortel que son vieux Raphaël.
« Sa sainteté a demandé à chaque monde industrialisé de la Pax de construire ou de financer la construction d'un de ses croiseurs cuirassés archanges de classe planétaire, »
dit l'amiral Wu du ton qu'elle prenait pour donner des instructions.
« Depuis 4 ans, 21 sont entrés en service actif. 60 autres sont presque terminés. »
L'hologramme se mit à tourner et à grandir et soudain, l'image montra une coupe du pont principal. C'était comme si une lance laser avait fendu le vaisseau en deux.
Comme vous le voyez, poursuivit Wu, les espaces de vie, les ponts de commandement et les centres tactiques C3 sont bien plus spacieux qu'à bord du précédent Raphaël. Plus spacieux même que ceux de votre vieux vaisseau torche. La taille des équipements propulseurs, ceux de la propulsion Gédéon instantanée C+, classée secrète et le réacteur intégré, a été réduite d'un tiers, mais ils sont plus efficaces et plus faciles à entretenir. Le nouveau Raphaël emporte 3 vaisseaux de descente atmosphérique et 1 patrouilleur ultra rapide. Il a des crèches de résurrection automatisées qui peuvent servir aux 28 membres d'équipage et à 22 marines ou passagers.
« Les défenses ?» demanda le père capitaine de Soya, toujours au repos, les mains derrière le dos.
« Des champs de confinement de classe 10, » répondit Wu d'un ton cassant. « La plus récente technologie de furtivité. Des CEM de classe Oméga, une capacité de brouillage. Ainsi que l'assortiment habituel de défense rapprochée énergétique et hypercinétique.
Les capacités d'attaque ? Demanda de Soya. Les orifices et les batteries visibles sur l'holo le lui avaient appris, mais il voulait l'entendre. L'amiral Marusine répondit sur un ton plein d'orgueil, comme s'il montrait son dernier petit-fils.
Les 9 mesures au complet. Les CBP, mais qui sont alimentés par le cœur du propulseur C+, et non par le propulseur à fusion. Ratatine tout dans un rayon d'une demi-UA. Les nouveaux missiles hypercinétiques Hawking, miniaturisés, dont la taille et la masse font la moitié de ceux que vous aviez sur le Balthazar. Des aiguilles à plasma au rendement presque double de celui des têtes nucléaires d'il y a 5 ans. Des rayons de la mort.
Le père capitaine de Soya essaya de ne pas réagir. les rayons de la mort étaient interdits dans la flotte de la Pax. Marusine vit quelque chose sur son visage.
« Les choses ont changé, Federico. Ce sera un combat à mort. Les extros se reproduisent comme des mouches là-bas dans le noir, et à moins de les arrêter, ils détruiront Passem dans un an ou deux. »
Le père de Soya hocha la tête. « Puis-je me permettre, amiral, de demander quel monde a financé la construction de ce nouveau Raphaël ?» Marusine sourit et montra l'hologramme. La coque du vaisseau parut se précipiter vers De Soya lorsque l'agrandissement augmenta. L'image pénétra à l'intérieur et se fixa sur le pont tactique, s'approchant du bord de la fosse holo du centre tactique, jusqu'à ce que le père capitaine puisse distinguer une petite plaque de bronze portant « Raphaël VSS » et en dessous écrit plus petit « Construit et armé par le peuple d'Evansgate pour la défense de toute l'humanité ». « Pourquoi souriez-vous, père capitaine ?» demanda l'amiral Marusine.
« Eh bien, amiral, c'est parce que... je suis allé sur le monde d'Evansgate, amiral. Il y a plus de 4 ans standard, bien sûr, mais la planète était vide. Il n'y avait là qu'une douzaine de chercheurs de minerais et une garnison de la Pax en orbite. Depuis l'invasion des extros, amiral, il y a 300 ans, cette planète est restée inhabitée. Je n'arrive simplement pas à comprendre comment elle a pu financer l'un de ces vaisseaux. Il me semble qu'il faudrait le PNB d'une société comme le Vecteur Renaissance pour payer un seul archange.
Le sourire de Marusine ne faiblit pas.
Tout à fait exact, père capitaine. Evansgate est un monde infernal, atmosphère empoisonnée, pluie acide, boue omniprésente et pleine de soufre, qui ne s'est jamais remis de l'attaque extro. Mais sa sainteté a pensé qu'il valait mieux confier l'exploitation de cette planète à des entreprises privées. Elle renferme toujours une fortune en métaux lourds et en produits chimiques. Aussi, nous l'avons vendue.
Cette fois, De Soya cligna des yeux.
Vendue, amiral ? Une planète ?
Tandis que Marusine souriait ouvertement, l'amiral Wu précisa :
À l'Opus Dei, père capitaine.
De Soya ne dit mot, mais ne montra pas non plus qu'il avait compris.
L'œuvre de Dieu a été pendant longtemps une association religieuse mineure, expliqua Wu, qui existe, je crois, depuis 1200 ans. Elle a été fondée en 1920 après Jésus-Christ. Depuis quelques années, elle est devenue non seulement une grande alliée du Saint-Siège, mais un sérieux concurrent du Mercantilus.
Le père de Soya concevait aisément que le Mercantilus achète des mondes entiers. Pourtant, il n'arrivait pas à imaginer que ce consortium ait permis à un concurrent d'acquérir pareil pouvoir durant les quelques années où il n'avait eu aucune nouvelle de la Pax. Mais cela n'importait guère. Il se tourna vers Marusine.
« Une dernière question, amiral. »
Celui-ci jeta un coup d'œil au chronomètre de son persoc et hocha poliment la tête.
Cela fait 4 ans que je ne suis plus au service de la flotte. Pendant tout ce temps, je n'ai pas porté d'uniforme ni reçu de recyclage tech. La planète où j'accomplissais mes fonctions de prêtre est si éloignée du courant dominant que j'aurais aussi bien pu être placé en fugue cryotechnique. Comment pourrais-je assumer le commandement d'un vaisseau de la nouvelle génération classe Archange ?
Nous allons vous recycler rapidement,
répliqua Marusine en fronçant les sourcils.
La flotte de la Pax sait ce qu'elle fait.
Est-ce que vous refusez cette nomination ? Le père de Soya hésita visiblement pendant une seconde.
Non, amiral.
J'apprécie la confiance que vous et la flotte mettez en moi.
Je ferai de mon mieux, amiral.
De Soya avait été formé 2 fois à l'obéissance, en tant que prêtre et jésuite, et en tant qu'officier de la flotte de sa sainteté. Le visage de pierre de Marusine s'adoucit.
« J'y compte bien, Federico. Nous sommes contents de vous compter de nouveau parmi nous. Nous aimerions que vous restiez au presbytère des légionnaires, ici, sur Passem, jusqu'à ce que nous soyons prêts à vous envoyer à bord de votre vaisseau, si cela ne vous dérange pas. »«
Merde alors, » pensa De Soya, encore en prison avec ses maudits légionnaires. « Bien sûr, amiral. C'est un endroit agréable. »
Marusine jeta de nouveau un coup d'œil sur son persoc. L'entretien arrivait clairement à sa fin.
Quelque chose à nous demander avant que l'affectation devienne officielle ?
De Soya hésita de nouveau. Il savait que formuler une requête ne se faisait pas. Il parla tout de même.
Oui, amiral.
Une. Trois hommes servaient avec moi à bord de l'ancien Raphaël, des gardes suisses que j'avais ramenés d'Hyperion. Le lancier Rettig est mort, amiral. Mais le sergent Grégorius et le caporal Key sont restés avec moi jusqu'à la fin. Et je me demande...
Marussine hocha impatiemment la tête.
« Vous désirez les avoir avec vous à bord du nouveau Raphaël ? Cela me semble légitime. J'ai eu un cuisinier que j'ai traîné de vaisseau en vaisseau. Le pauvre couillon s'est fait tuer lors du second engagement de Colsac. Je ne sais rien sur ces hommes ?»
L'amiral se tourna vers Margaret Wu.
« Par une étrange coïncidence, dit l'amiral Wu, je suis tombé sur leur fiche pendant que je vérifiais les documents de votre réintégration. Le sergent Grégorius sert en ce moment dans les territoires de l'anneau. Je suis sûr qu'on pourrait arranger un transfert. Quant au caporal Key, malheureusement... »
Les muscles de l'estomac du père de Soya se crispèrent. Key était avec lui sur le bosquet de Dieu. Grégorius avait réintégré la crèche après une résurrection ratée. Et la dernière fois qu'il avait vu le petit caporal vivant, c'était peu après leur retour dans l'espace de Passem, quand la police militaire les avait arrêtés et mis dans des cellules séparées. De Soya avait serré la main du caporal et promis qu'il se reverrait.
« Le caporal Key est mort il y a 2 années standard, »
termina Wu.
« Il a été tué durant une attaque extra lancée contre le saillant du Sagittaire. Il a reçu l'étoile d'argent de Saint-Michel, à titre posthume, bien entendu. »
De Soya hocha gravement la tête.
« Merci. »
L'amiral Marussin lui offrit son sourire paternel de politicien et lui tendit la main par-dessus le bureau.
« Bonne chance, Federico. Menez-leur la vie dure avec le Raphaël. »
Le quartier général du Mercantilus n'était pas à proprement parler sur Passem, mais était situé de façon appropriée au point troyen L5 qui traînait derrière la planète à quelques 60 degrés orbitaux. Entre le monde du Vatican et l'énorme tore creux du Mercantilus, un beignet de carbone-carbone de 270 mètres d'épaisseur, de 1 clic de large et de 26 km de diamètre, dont l'espace intérieur contenait un réseau arachnéen de cales sèches, d'antennes com et de baies de chargement, flottait la moitié de toute la puissance de feu de la flotte de la Pax basée en orbite. Kenzo Isozaki calcula un jour qu'une tentative de coup lancée depuis le Taurus Mercantilus durerait 12,06 nanosecondes avant d'être vaporisé. Le bureau d'Isozaki était logé dans un bulbe transparent au bout d'une tige de carbone monocristallin qui s'élevait à 400 mètres au-dessus du bord extérieur du tore. Le PDG qui s'y trouvait pouvait, à son gré, opacifier ou non la biocoque incurvée. Aujourd'hui, elle était transparente, sauf dans sa section polarisée qui adoucissait l'éclat du soleil jaune de Passem. Pour le moment, l'espace semblait vide, mais comme le tore tournait sur lui-même, le bulbe entrerait dans l'ombre de l'anneau, et Isozaki pourrait alors voir les étoiles apparaître soudain, comme si l'on avait tiré un épais rideau noir afin de révéler les milliers de bougies brillantes dont la flamme ne vacillait pas. Ou la myriade de feux de camp de mes ennemis, pensa Isozaki lorsque l'obscurité l'enveloppa pour la 20e fois en ce jour de travail. Lorsque ses murs étaient totalement transparents, ce bureau ovale avec son mobilier modeste, table, fauteuil et lampe tamisée, devenait une plateforme moquettée, solitaire dans l'immensité de l'espace, éclairée par les étoiles éclatantes et la longue bande de la Voie lactée. Mais ce n'était pas ce spectacle familier qui poussa le PDG du Mercantilus à lever les yeux. Serti dans le champ étoilé, les traînées de fusion de 3 cargos en orbite d'approche ressemblaient à des taches sur un holo astronomique. Isozaki avait tellement l'habitude d'estimer, d'après les traînées de fusion, les distances et les deltas de vitesse des véhicules spatiaux qu'il put dire, au premier coup d'œil, dans combien de temps ces cargos s'arrimeraient. Et même leur identité. Le MP Moldar Effectuator s'était ravitaillé en carburant en rasant une géante gazeuse du système d'Epsilon Eridani et brûlait plus rouge que d'ordinaire. La capitaine du VSGM Emma Constant se précipitait comme d'habitude pour apporter au tore sa cargaison de métaux réactifs de Pégase 51
et décélérait, en orbite d'approche, à un bon 15% de plus que les recommandations du Mercantilus. Pour finir, la traînée la plus petite ne pouvait être que celle du VSGM Elemosyneria Apostolica, en provenance du système de renaissance, sortant juste en vrille de son point de translation C+. Isozaki sut cela immédiatement, tout comme il connaissait les 300 autres points de translation optimales visibles dans sa partie du ciel du système de Passem. Le tube élévateur surgit du plancher et la lumière stellaire éclaira la passagère du cylindre transparent. Isozaki savait que celui-ci n'était transparent que de l'extérieur. Ceux qui se trouvaient dans la cabine aux parois couvertes de miroirs ne voyaient rien du bureau du PDG, seulement leur propre reflet, jusqu'à ce qu'Isozaki déverrouille la porte. Anna Pelikoniani était la seule occupante du tube. Isozaki la salua d'un signe de tête et son IA personnel lui ouvrit la porte. En s'avançant vers lui, sa collègue et protégée ne jeta même pas un coup d'œil au champ d'étoiles tournoyant.
« Bonjour, Kenzo-san. »«
Bonjour, Anna. »
Il lui désigna de la main le fauteuil le plus confortable, mais Koniani fit non de la tête et resta debout. Elle ne s'asseyait jamais dans le bureau d'Isozaki, qui ne cessait jamais de le lui proposer.
« La messe du conclave est presque terminée, » dit-elle.
Isozaki hocha la tête. L'IA de son bureau opacifia les parois de la bulle et projeta l'émission sur faisceau étroit du Vatican. La basilique Saint-Pierre était, ce matin, baignée d'écarlate, de pourpre, de noir et de blanc, tandis que les 83 cardinaux, qui seraient bientôt enfermés dans le conclave, s'inclinaient, faisaient une génuflexion, priaient, s'agenouillaient, se levaient et chantaient. Derrière ce troupeau des papabilés théoriquement possibles, se tenaient les centaines d'évêques et d'archevêques, de diacres et de membres de la curie, d'officiers supérieurs, d'administrateurs civils, de gouverneurs et d'élus à des postes élevés de la Pax qui se trouvaient sur Passem au moment de la mort du pape ou à moins de 3 semaines de déficit temporel de la planète. Les délégués des dominicains, des jésuites, des bénédictins, des légionnaires du Christ, des maristes, des salésiens et l'unique délégué des quelques franciscains qui restaient encore. Enfin, il y avait, au fond, les invités estimés, des délégués honoraires du Mercantilus, de l'Opus Dei, de l'Instituto per Opere di Religione, connu aussi sous le nom de Banque du Vatican, des délégués des ailes administratives de la Prefettura du Vatican, du Servizio Assistenziale del Santo Padre, les services sociaux du Saint-Père, de l'APSA, de l'administration du patrimoine du Saint-Siège, aussi bien que de la propre chambre apostolique du cardinal Kamerlingue. Sur les derniers bancs se regroupaient les invités d'honneur de l'Académie pontificale des sciences, de la Commission papale interstellaire Justice et Paix, de nombreuses académies papales telles que l'Académie pontificale ecclésiastique et d'autres sociétés quasi théologiques nécessaires au bon fonctionnement du vaste état de la Pax. Pour finir, on voyait les uniformes brillants du corps helvétique, les gardes suisses, ainsi que les commandants de la garde palatine constituée par le pape Jules, et la première apparition publique du commandant de la garde noble, gardée secrète jusqu'à ce jour, un homme brun, pâle, en uniforme rouge uni. Isozaki et Koniani contemplaient cette pompe d'un œil connaisseur. Ils avaient été l'un et l'autre invités à la messe, mais depuis quelques siècles, c'était devenu une tradition pour les PDG du Mercantilus d'honorer de leur absence les grandes cérémonies de l'Église, où ils se faisaient représenter par leurs délégués officiels au Vatican. Tous deux regardaient le cardinal Questnongle célébrer la messe du Saint-Esprit et voyaient dans le cardinal Kamerlingue un homme de paille impuissant. Leur attention était fixée sur le cardinal Lourdussami, le cardinal Mustapha et une demi-douzaine d'autres agents du pouvoir qui occupaient le premier rang. La messe se termina avec la bénédiction finale, et les cardinaux votants sortirent en procession solennelle vers la chapelle Sixtine, sur laquelle les caméras holo s'attardèrent pendant que les portes étaient scellées, le vestibule menant au conclave fermé, la porte de celui-ci verrouillée de l'intérieur et cadenassée de l'extérieur, et que le commandant des gardes suisses ainsi que le préfet de la maisonnée pontificale annonçaient officiellement le début du conclave hermétiquement enclos à l'intérieur. Le reportage du Vatican passa alors aux commentaires et aux hypothèses, tandis que l'image s'attardait sur la porte scellée.
Ça suffit, dit Kenzo Isozaki.
L'émission s'éteignit, la bulle redevint transparente, et la lumière du soleil inonda la pièce que surplombait un ciel noir. Anna Pelliconiani eut un mince sourire.
Le vote ne devrait pas durer longtemps.
Isozaki était retourné dans son fauteuil. Il joignit l'extrémité de ses doigts et tapota sa lèvre inférieure.
Anna, dit-il, croyez-vous que nous tous qui sommes à la tête du Mercantilus, possédions un véritable pouvoir?
L'expression neutre de Cognani révéla sa surprise.
Pendant la dernière année fiscale, Kenzo-san, ma division a réalisé un profit de 36 milliards de marks.
Isozaki ne bougea pas.
Madame Cognani, dit-il, seriez-vous assez gentille pour ôter votre veste et votre corsage?
Sa protégée ne scia pas. Depuis 28 années standard qu'ils étaient collègues, subordonnés et patrons en fait, Isozaki n'avait jamais rien fait, dit ou sous-entendu qui puisse être interprété comme une avance sexuelle. Elle n'hésita qu'une seconde, puis décella sa veste, l'ôta, la posa sur le fauteuil dans lequel elle ne s'était pas assise, et décella sa chemise. Elle la plia et la mit sur sa veste. Isozaki se leva et contourna son bureau pour venir se planter à 1 mètre d'elle.
Vos sous-vêtements aussi, dit-il en ôtant sa propre veste et en déboutonnant sa chemise à l'ancienne.
Sa poitrine était robuste, musclée, mais glabre. Cognani ôta son soutien-gorge. Ses seins étaient petits, mais parfaitement modelés, avec des mamelons roses. Kenzo Isozaki leva la main comme pour la toucher, montra quelque chose du doigt, puis le retourna vers sa propre poitrine et toucha le cruciforme à double barre qui courait de son sternum à son nombril.
Ça, c'est le pouvoir.
Il pivota sur ses talons et commença à se rhabiller. Au bout d'un moment, Anna Pelliconiani haussa les épaules et fit de même. Quand ils eurent terminé, Isozaki s'installa de nouveau derrière son bureau et montra d'un geste l'autre fauteuil. Il vit, calmement étonné, Anna Pelliconiani y prendre place.
Vous voulez dire que peu importe que nous réussissions à nous rendre indispensables au nouveau pape, s'il y a un nouveau pape? L'Église aura toujours l'ultime atout de la résurrection.
Pas tout à fait, répliqua Isozaki en joignant de nouveau le bout de ses doigts,
comme si le précédent intermède n'était pas arrivé.
Je dis que le pouvoir qui contrôle le cruciforme contrôle l'univers des hommes.
L'Église,
commença Cognani sans poursuivre sa phrase.
Bien sûr, le cruciforme est seulement un élément de l'équation du pouvoir. Le technocentre a donné à l'Église le secret de la résurrection réussie. Mais les IA sont de connivence avec l'Église depuis 280 ans,
pour des fins qui leur sont propres, dit doucement Isozaki. Quelles sont ces fins, Anna?
Le bureau entra dans l'ombre. Des étoiles naquirent avec la violence d'une explosion. Cognani leva le visage vers la Voie lactée pour s'offrir un moment de réflexion.
Personne ne le sait,
finit-elle par dire.
La loi d'Ohm.
Isozaki sourit.
Très bien. Suivre le chemin de moindre résistance ne nous conduira peut-être pas dans l'Église, mais via le centre.
Pourtant, le conseiller Albedo ne rencontre personne que sa sainteté et Lourdes Samy.
Personne que nous connaissions, rectifia Isozaki. Mais il suffit que le centre revienne dans l'univers humain.
Cognani hocha la tête. Elle comprenait la suggestion implicite. Les IA de classe centre, illicites, fabriquées par le Mercantilus, pouvaient trouver l'avenue de l'infoplan et la suivre jusqu'au centre. Pendant près de 300 ans, le premier commandement imposé par l'Église et la Pax avait été « Tu ne fabriqueras pas de machine pensante égale ou supérieure à l'humanité ». Les IA en usage dans la Pax étaient plus des instruments à tout faire que des intelligences artificielles comme celles qui avaient évolué à l'écart de l'humanité 1 millénaire plus tôt. Rien que des machines pensantes idiotes comme l'IA du bureau d'Isozaki ou l'ordinateur spatial crétin de l'ancien vaisseau du père de Soya, le Raphaël.
Mais, depuis une douzaine d'années, des départements de la recherche secrète du Mercantilus avaient recréé des IA autonomes qui égalaient ou surpassaient celles d'usage courant pendant l'ère de l'hégémonie. Le risque et les bénéfices de ce projet étaient presque incommensurables. La domination absolue du commerce de la Pax et la rupture du vieil équilibre des pouvoirs entre la flotte et le Mercantilus s'il aboutissait, l'excommunication et la torture pratiquée dans les souterrains du Saint-Office et l'exécution si l'Église le découvrait. Et maintenant, ce projet-là. Anna Pelliconiani se leva.
« Mon Dieu !»
dit-elle doucement.
« Ce serait un ultime moyen détourné. »
L'Église possédait une chose que le centre désirait, dont il avait besoin. La part de celui-ci dans la négociation a été la maîtrise du cruciforme. L'Église lui a sans doute offert une chose d'une valeur égale.
Cognani se dit, d'une valeur égale à l'immortalité de milliards d'êtres humains.
J'ai toujours cru que lorsque Lennart Hoyt et Lourdes Samy ont contacté les éléments survivants du centre il y a plus de 2 siècles, ils leur avaient offert en échange du cruciforme le rétablissement secret du technocentre dans l'espace humain.
Pour quelle fin, Anna? Où était le bénéfice du centre?
Quand le centre faisait partie intégrale de l'hégémonie, gérait le RETS et le canal large, les IA se servaient des neurones des milliards de cerveaux humains transitant par les distances comme d'une sorte de filet neural qui constituait un élément de leur projet d'intelligence ultime.
Oui, mais il n'y a plus de distance maintenant. S'ils se servent des êtres humains, c'est comment? Et où? Sans intention de le faire, Anna Pelliconiani porta la main à son sternum. Isozaki sourit. C'est irritant, n'est-ce pas? Comme un mot que l'on a sur le bout de la langue et qui ne veut pas venir à l'esprit. Un puzzle dont il manque une pièce. Mais nous venons de retrouver l'une de celles qui manquaient.
Cognani leva un sourcil.
La fille? Revenue dans l'espace de la Pax. Nos agents de l'entourage de Lourdes Samy ont confirmé que le centre a transmis l'annonce de cet événement. C'est arrivé après la mort de sa sainteté. Seul le secrétaire d'État, le grand inquisiteur et les officiers supérieurs de la flotte sont au courant.
Où est-elle?
Si le centre le sait, il ne l'a pas révélé à l'Église ni à un autre organisme humain. Mais à cause de cette nouvelle, la flotte de la Pax a rappelé ce capitaine, de Soya.
Le centre a prédit qu'il serait impliqué dans la capture de la petite fille,
dit Cognani. Un début de sourire releva les commissures de ses lèvres. Ah oui, dit Isozaki, fier de son élève.
La loi d'Ohm.
Précisément. La femme toucha de nouveau sa poitrine sans avoir conscience de le faire.
Si nous trouvons la fille d'abord, cela nous apportera l'avantage qu'il nous faut pour entamer des négociations directes avec le centre. Et les moyens?
Avec les nouvelles capacités dont nous disposerons en direct.
Aucun des dirigeants qui connaissaient l'existence du projet secret des IA ne disait jamais les mots ou les phrases tout haut, même dans leur bureau protégé contre les écoutes. Si nous avons la fille et les moyens de négociation, poursuivit Cognani, nous détiendrons le pouvoir nécessaire pour supplanter l'Église dans les transactions du centre avec l'humanité.
Si nous découvrons ce que le centre a obtenu de l'Église en contrepartie du contrôle du cruciforme, murmura Isozaki, et si nous offrons l'équivalent ou quelque chose de mieux.
Cognani hocha la tête d'un air distrait.
Elle voyait comment tout cela était lié à ses buts et à ses efforts en tant que membre dirigeant de l'Opus Dei.
À tous égards, comprit-elle aussitôt. Entre-temps, il faut trouver la fille avant les autres. La flotte de la Pax va mettre en jeu des ressources qu'elle n'a jamais révélées au Vatican.
Et vice-versa, dit Isozaki.
Cette espèce de lutte lui plaisait infiniment.
Et nous devrons faire de même,
confirma Cognani en se tournant vers le tube de lévitation. Engager toutes nos ressources.
Elle sourit à son mentor. Les trois derniers participants du jeu à somme nulle, n'est-ce pas, Kenzo-san?
Exact. Tout au gagnant, le pouvoir, l'immortalité et des richesses qui dépassent l'imagination humaine. Au perdant, la destruction, la vraie mort et l'esclavage éternel pour ses descendants. Il leva un doigt. Mais pas un jeu à trois participants, Anna. À six.
Konyani s'arrêta près de la porte de l'ascenseur. Je vois le quatrième. Le centre a intérêt lui aussi à trouver la fille d'abord, mais...
Isozaki baissa la main. Nous devons supposer que dans ce jeu, la fille a son propre objectif, n'est-ce pas? Et celui, quel qu'il soit, qu'il a introduit en tant que pion. Voilà notre sixième joueur.
Ou l'un des cinq autres, répliqua Konyani en souriant. Elle aussi appréciait une partie aux enjeux élevés.
Isozaki acquiesça d'un signe de tête et fit pivoter son fauteuil pour contempler le nouveau lever de soleil au-dessus de la bande convexe du tore du Mercantilus. Il ne se retourna pas lorsque la porte de l'ascenseur se referma et Kana Pelikonyani s'en alla. Au-dessus de l'autel, Jésus-Christ, le visage sévère et implacable, répartissait les hommes en bons et en mauvais, les élus et les damnés. Il n'y avait pas de troisième groupe. Le cardinal Lourdussami s'assit dans sa stalle, surmontée d'un dais, de la chapelle Sixtine, et contempla la fresque du jugement dernier de Michel-Ange. Il avait toujours trouvé cette figure intimidante, autoritaire, impitoyable. Peut-être l'icône parfaite qu'il fallait pour surveiller ce choix d'un nouveau vicaire du Christ. Les 83 stalles où trônaient les 83 cardinaux présents en chair et en os remplissaient la petite chapelle. Un espace vide permettait l'activation des holos représentant les 37 cardinaux absents, simple holo d'une stalle surmontée d'un dais, à raison d'un holo à la fois. C'était le premier matin après que les cardinaux eurent été séquestrés dans le palais du Vatican. Lourdussami avait bien dormi et bien mangé. Sa chambre, un lit de camp dressé dans son bureau, son repas, un menu simple cuisiné par les religieuses de la maison des hôtes du Vatican, une nourriture sans recherche, et un vin blanc servi dans les illustres appartements des Borgia. Maintenant, ils étaient tous rassemblés dans la chapelle Sixtine, leur stalle-trône en place, dais dressés. Lourdussami savait que cette vision splendide avait manqué au conclave pendant des siècles. Les cardinaux étaient devenus trop nombreux pour tenir dans la petite chapelle, à l'ère pré-égyrienne, au XIXe ou XXe siècle après Jésus-Christ, pensa-t-il. Mais, à la chute des distances, l'Église était si affaiblie que sa quarantaine de cardinaux pouvait, une fois de plus, y tenir facilement. Le pape Jules avait gardé ce nombre réduit, jamais plus de 120 cardinaux, malgré la croissance de la Pax. Et avec presque 40 d'entre eux incapables d'arriver à temps pour le conclave, la chapelle Sixtine pouvait contenir les stalles de ceux installés d'une manière permanente sur Passem. Le moment était venu. Tous les électeurs de la chapelle se levèrent. Dans l'espace vide, près de la table des scrutateurs, à côté de l'autel, les holos des 37 cardinaux électeurs absents miroitèrent en s'allumant. L'espace étant réduit, les images holos étaient petites, silhouettes humaines guère plus grandes que des poupées dans des stalles de taille équivalente, toutes flottant dans l'air comme les fantômes des électeurs des conclaves passés. Lourdussami sourit en constatant combien la taille réduite de ses électeurs absents semblait de circonstance. Le pape Jules avait toujours été élu par acclamation. L'un des trois cardinaux scrutateurs leva la main. Le Saint-Esprit était peut-être prêt à animer ses hommes et ses femmes, mais il fallait tout de même maintenir une certaine coordination. Quand il baissa la main, les 83 cardinaux présents et les 37 holos parlèrent d'une seule voix.
« Eligo le père Lénard Hoyt !»
cria le cardinal Lourdussami et il vit le cardinal Mustapha prononcer les mêmes mots sous le dais de sa stalle. Devant l'autel, le scrutateur marqua un temps d'arrêt. L'acclamation avait été forte et claire, mais certainement pas unanime. C'était une chose nouvelle. Depuis 270 ans, l'élection par acclamation avait toujours été immédiate.
L'Ourdus Ami s'efforça de ne pas sourire ni regarder autour de lui. Il savait qui, parmi les cardinaux les plus récents, n'avait pas réélu le pape Jules. Il savait combien cela avait coûté d'acheter ses hommes et ses femmes. Il savait le terrible risque qu'il courait et dont il souffrirait presque certainement. L'Ourdus Ami savait tout cela parce qu'il l'avait orchestré. Après avoir consulté les autres scrutateurs, celui qui avait déclenché l'acclamation dit
« Nous allons procéder au vote à bulletin secret. »
Les cardinaux se mirent à parler entre eux d'un air excité tandis qu'on préparait les bulletins et qu'on les distribuait. Cela n'était jamais arrivé du vivant de la plupart de ces princes de l'Église. Les holos des cardinaux électeurs absents ne servaient plus à rien. Un petit nombre d'entre eux avaient préparé leur microprocesseur interactif en vue du scrutin, mais la plupart ne s'étaient pas donné cette peine. Les maîtres de cérémonie passèrent entre les stalles pour distribuer les cartons de vote, 3 à chaque cardinal électeur. Les scrutateurs parcouraient la forêt des stalles pour s'assurer que chacun avait bien un stylo. Quand tout fut prêt, le cardinal Deacon leva de nouveau la main, cette fois pour signifier qu'il fallait voter. L'Ourdus Ami regarda son bulletin. En haut à gauche était écrit « Eligo in sumum pontificem ». Il y avait de la place en dessous pour un seul nom. Le cardinal Simon Augustino L'Ourdus Ami écrivit « Lennar Hoyt ». Il plia l'affiche et la brandit afin qu'on puisse la voir. En une minute, les 83 cardinaux, ainsi que la demi-douzaine de holos interactifs, firent de même. Le scrutateur commença à appeler les cardinaux par ordre de préséance. Le cardinal L'Ourdus Ami se leva le premier, quitta sa stalle et gagna la table près de l'autel sous le regard du terrible Christ de la fresque. Il fit une génuflexion, puis s'agenouilla et courba la tête pour une prière silencieuse. Se relevant, il dit tout haut
« J'appelle à témoin le Christ, le Seigneur qui sera mon juge. » Que je vote pour celui que devant Dieu, je considère comme digne d'être élu. »
L'Ourdus Ami déposa solennellement son bulletin plié sur le plat d'argent placé sur l'urne. Soulevant le plat, il fit glisser son vote dans le réceptacle. Le cardinal Deacon hocha la tête. L'Ourdus Ami s'inclina, tourné vers l'autel, et retourna à sa stalle. Le cardinal Mustapha, grand inquisiteur, s'avança majestueusement pour déposer le second bulletin de vote. Le pointage ne commença qu'une heure plus tard. Le premier scrutateur secoua l'urne pour mélanger les bulletins. Le second les compta, y compris les 6 copiés d'après les holos interactifs, et déposa chacun d'eux dans un second réceptacle. Le compte correspondait au nombre de votants du conclave. On procéda au scrutin. Le premier scrutateur dépliait un bulletin, écrivait le nom qui était dessus et le passait au deuxième scrutateur qui notait le nom et le passait au troisième et dernier scrutateur. Cet homme, le cardinal Quesnongle, disait le nom tout haut avant de le noter. Dans leur stalle, les cardinaux prenaient note du nom sur un scripteur fourni par les scrutateurs. À la fin du conclave, les scripteurs seraient brouillés, leurs fichiers effacés, afin que ne subsiste aucun enregistrement du vote. L'Ourdus Ami et le reste des cardinaux présents n'avaient qu'une seule incertitude. Est-ce que les cardinaux électeurs dissidents qui s'étaient manifestés à l'acclamation mettraient vraiment le nom de quelqu'un d'autre en jeu? Lorsqu'on avait fini de lire un bulletin, le dernier scrutateur passait une aiguille enfilée dans le mot « Eligo » et faisait glisser la carte sur le fil. Quand on eut terminé la lecture de tous les bulletins, il fit un nœud au deux bouts du fil. Le candidat qui l'emportait fut admis dans la chapelle.
« Acceptez-vous votre élection canonique de pontife suprême ?»«
Je l'accepte, » dit le prêtre.
On apporta alors une stalle que l'on déposa derrière lui. Le cardinal Deacon leva la main et entonna
« Comme vous avez accepté votre élection canonique ?» Cette assemblée, sous le regard de Dieu Tout-Puissant, vous reconnaît pour évêque de l'Église de Rome, vrai pape et chef du Collège des évêques. Puisse Dieu vous bien conseiller
puisqu'il vous accorde le pouvoir total et absolu sur l'Église de Jésus-Christ. »
Amen, répondit le cardinal Lourdussamy, et il tira la corde qui abaissait le dais de sa stalle. Les 83 dais matériels et les 37 holographiques s'abaissèrent en même temps, et seul celui du pape resta levé. Le prêtre, maintenant pontife, se carra sous le dais papal.
« Quel nom avez-vous choisi en tant que souverain pontife ?» demanda le cardinal Deacon.
« J'ai choisi le nom d'Urbain XVI. » Un murmure et un bourdonnement s'élevèrent des autres stalles. Le cardinal Deacon tendit la main, puis lui et les autres scrutateurs conduisirent le prêtre hors de la chapelle. Le volume du murmure et du chuchotement monta. Le cardinal Mustapha se pencha hors de sa stalle et souffla à Lourdussamy.
Il doit penser à Urbain II. Urbain XV était un petit couard pleurnicheur du XIXe siècle qui ne faisait que lire des romans policiers et écrire des lettres d'amour à son ex-maîtresse.
Urbain II, dit Lourdussamy d'un air songeur.
Oui, bien sûr.
Au bout de quelques minutes, les scrutateurs revinrent avec le prêtre. Maintenant, le pape était habillé de blanc. Il portait une soutane blanche, une calotte blanche, une croix pectorale et une large ceinture, ou fascia, blanche elle aussi. Le cardinal Lourdussamy s'agenouilla sur les dalles de la chapelle, comme firent tous les autres cardinaux réels ou holographiques, et le nouveau pape leur donna sa première bénédiction. Puis les scrutateurs et les cardinaux préposés allèrent brûler dans le poêle les bulletins attachés par le fil noir, ajoutant assez de bianco chimique pour s'assurer que la sfumata serait bien une fumée blanche. Les cardinaux sortirent un à un de la chapelle Sixtine et parcoururent les anciens chemins et corridors menant à Saint-Pierre où le cardinal Deacon, leur aîné, sortit seul sur le balcon pour annoncer le nom du nouveau pontife à la multitude en attente. Le père capitaine Federico de Soya se trouvait parmi les 500 000 individus serrés les uns contre les autres, qui attendaient ce matin-là sur la place Saint-Pierre et dans les environs. Il n'était sorti de son emprisonnement de facto dans le presbytère des légionnaires que quelques heures auparavant. Il devait se présenter au spatioport de la flotte cet après-midi afin de s'embarquer dans la navette qui le conduirait à son nouveau poste de commandement. En traversant le Vatican, De Soya avait suivi la foule, il avait plutôt été englouti par elle, d'hommes, de femmes et d'enfants qui s'écoulaient comme un fleuve vers la place. Une grande clameur s'éleva lorsque les bouffées de fumée montèrent du tuyau de poêle. La cohue incroyablement dense qui se pressait sous le balcon de Saint-Pierre le devint plus encore lorsque des dizaines de milliers de personnes se précipitèrent entre les colonnades et les statues. Des centaines de gardes suisses contenaient la foule loin de l'entrée de la basilique et des quartiers privés. Quand Deacon apparut et annonça que le nouveau pape s'appellerait sa sainteté Urbain XVI, un hoquet de surprise parcourut la foule. De Soya se retrouva lui aussi la bouche ouverte, surpris et secoué. Tout le monde s'attendait à Jules XV. L'idée d'un autre pape était impensable. Lorsque le nouveau pontife mit le pied sur le balcon, la surprise fit place à des acclamations qui se prolongèrent indéfiniment. C'était bien le pape Jules, son visage familier, son front haut, ses yeux tristes. Le père Lennart Hoyt, le sauveur de l'Église, avait été élu une fois de plus. Sa sainteté leva la main pour la bénédiction habituelle, et attendit que la foule cesse d'acclamer pour parler, mais cette dernière ne voulait pas se taire. Le rugissement qui s'élevait d'un million de gorges continuait, encore et encore. « Pourquoi Urbain XVI ?» se demanda le père capitaine de Soya. Il avait suffisamment lu et étudié l'histoire de l'Église lorsqu'il était jésuite. Rapidement, il feuilleta ses notes mentales sur les Urbains. La plupart étaient peu mémorables ou pires. « Pourquoi ?»«
Merde !»
dit-il tout haut, le doux juron se perdant dans le rugissement prolongé des fidèles qui remplissaient la place Saint-Pierre.
« Merde !»
répéta-t-il. Avant même que la foule se soit suffisamment calmée pour que le nouvel ancien pontife puisse parler, expliquer le choix de son nom, annoncer ce que De Soya savait déjà,
le père capitaine comprit. Et son cœur se serra.
Urbain II avait régné de 1088 à 1099 après Jésus-Christ. Au synode que ce pape convoqua à Clermont en novembre de l'année 1095, se souvint de Soya, Urbain II avait lancé son appel à la guerre sainte contre les musulmans du Proche-Orient pour secourir Byzance, libérer tous les lieux saints de la domination arabe. Cet appel avait mené à la première croisade, la première de nombreuses campagnes sanglantes. La foule finit par se calmer. Le pape Urbain XVI se mit à parler, sa voix familière pleine d'une énergie nouvelle s'éleva et retomba sur les têtes des 500 000 fidèles qui l'écoutaient en personne et des milliards qui le faisaient par l'émission en direct. Le père capitaine de Soya tourna le dos avant même que le nouveau pape commence à parler. Il tenta de se frayer de force un passage dans la foule immobile afin d'échapper à l'enfermement de la place Saint-Pierre, soudain source de claustrophobie. Sans résultat. De Soya était pris au piège de la foule délirante et joyeuse. Les paroles du nouveau pontife étaient également joyeuses et passionnées. Le père capitaine, incapable de fuir, resta là et courba la tête. Lorsque la foule commença à crier « Deus les voltes », De Soya se mit à pleurer. La croisade. La gloire. Une solution finale au problème des extros. Un massacre, une destruction qui passerait toute imagination. Le père capitaine de Soya ferma les yeux aussi fort qu'il le put, mais la vision persista. Des faisceaux de particules chargées flamboyaient contre le noir de l'espace, des mondes entiers brûlaient, des océans se vaporisaient et des continents devenaient des rivières de lave. Des forêts orbitales explosaient, transformées en fumée, des corps carbonisés dérivaient en impesanteur. De fragiles créatures ailées prenaient feu, se carbonisaient et se dispersaient en cendres. De Soya pleurait tandis que des milliards d'êtres humains poussaient des vivas.
Chapitre 4. Je savais d'expérience que les départs et les adieux effectués en fin de journée sont les plus déprimants. Les militaires excellent à partir pour leurs plus grosses opérations au milieu de la nuit. Pendant mon service dans la garde nationale d'Hyperion, on aurait dit que tous les mouvements de troupes importants commençaient après minuit. Je me mis à associer ce mélange bizarre de peur et d'excitation, d'effroi et d'appréhension, à l'obscurité qui précède l'aube et à l'odeur de l'heure tardive. Aîné avait dit que je partirais le soir de son annonce à la confrérie, mais charger le kayak, faire mon sac en choisissant ce que je laisserais à jamais derrière moi, fermer ma tente ainsi que mon poste de travail dans l'enclave me prirent beaucoup de temps, aussi nous ne décollâmes pas à bord du vaisseau de descente, avant 2 heures du matin et le soleil était sur le point de se lever lorsque nous atteignîmes notre destination. J'avoue que je me sentais régenté et bousculé par l'annonce péremptoire de la jeune fille. Durant les 4 années que nous avions passées à Taliesin West, beaucoup de gens étaient venus trouver Aîné pour lui demander son avis et ses directives, mais pas moi. J'avais 32 ans, Aîné 16. Ma tâche consistait à veiller sur elle, à la protéger et, si l'occasion se présentait, à lui dire que faire et quand le faire. Je n'aimais pas du tout le tour qu'avaient pris les événements. J'avais supposé que Abétik nous accompagnerait jusqu'à l'endroit, quel qu'il fût, où j'étais censé foutre le camp, mais Aîné dit que l'androïde devait rester à l'enclave, aussi je perdis encore 20 minutes à le localiser et à lui faire mes adieux.
Aîné dit que nous nous reverrons en temps voulu, dit l'homme bleu, et je suis sûr que cela arrivera, à Chandimion.
Roll, dis-je pour la 500e fois, appelez-moi Roll.
Bien sûr, répondit Abétik avec ce petit sourire qui suggérait l'insubordination.
Putain de merde, m'écriai-je éloquemment, et je lui tendis la main. Abétik la serra. J'avais très envie d'étreindre notre vieux compagnon de voyage, mais je savais que cela l'embarrasserait. Les androïdes n'étaient pas réellement programmés pour être raides et serviles. Après tout, c'était des êtres vivants, organiques, non des machines. Mais entre les instructions de l'ARN et une longue pratique, ils devenaient des créatures désespérément compassées. du moins celui-là. Nous voilà partis, Aîné et moi, roulant hors du hangar dans le désert et décollant avec aussi peu de bruit que possible. J'avais dit adieu aux élèves et aux ouvriers de la confrérie que j'avais pu trouver, mais il était tard et les gens s'étaient dispersés pour regagner leurs lits dans les dortoirs, les tentes et les abris d'apprentis. J'espérais retomber un jour sur certains d'entre eux, sur tous les hommes et les femmes composant l'équipe de construction avec laquelle je travaillais depuis 4 ans, mais je ne croyais guère que ce fût possible. Le vaisseau de descente pouvait atteindre seul notre destination, rien qu'une série de coordonnées qu'Aîné lui avait fournies, mais je laissais les commandes en semi-manuel pour avoir quelque chose à faire pendant le vol. Je savais que nous avions 1500 clics à parcourir avant d'arriver quelque part sur le Mississippi, comme avait dit Aîné. Le vaisseau de descente aurait pu couvrir cette distance en 10 minutes de vol suborbital, mais il fallait économiser son énergie et ses maigres réserves de carburant. Aussi, après avoir étendu les ailes au maximum, nous gardâmes notre vélocité subsonique à une altitude confortable de 10 000 mètres, évitant ainsi de remorfer le vaisseau jusqu'à l'atterrissage. Nous ordonnâmes à la persona de l'astronef du consul, que j'avais autrefois transféré de mon persoc dans le centre d'IA du vaisseau de descente, de se taire, à moins qu'elle n'ait quelque chose d'important à nous dire, puis nous nous détendîmes dans la lueur rouge des instruments pour parler et regarder le continent sombre défiler au-dessous de nous. « Pourquoi cette précipitation, ma grande ?» Aîné esquissa ce geste de rejet, gauche, que je lui avais vu faire pour la première fois presque 5 ans auparavant.
« Cela me semblait important de s'y mettre. »
Sa voix était douce, presque sans vie, vidée de la vitalité et de l'énergie qui avait soumis la confrérie à sa volonté. Peut-être étais-je la seule personne vivante qui pouvait identifier ce ton, mais elle semblait sur le point de pleurer.
« Ça ne peut pas être si important que cela, » dis-je. « Me faire partir comme cela au milieu de la nuit. »
Aîné secoua la tête et fixa le pare-brise sombre un moment. Je m'aperçus qu'elle pleurait. Quand elle finit par se retourner, ses yeux à la lueur des instruments parurent très mouillés et très rouges.
« Si tu ne partais pas cette nuit, je perdrais courage et te demanderais de rester avec moi. Si tu ne t'en allais pas, je perdrais encore plus courage et je demeurerais sur la terre. Je ne retournerai jamais là-bas. »
J'avais une envie terrible de lui prendre la main, mais je gardais ma grosse patte sur le manche universel.
« Hé, dis-je, on pourrait rester ensemble. Cela n'a aucun sens de me faire partir d'un côté et toi de l'autre.
Si, cela a un sens. »
répliqua Aîné si doucement que je dus me pencher vers elle pour l'entendre.
Abétic pourrait aller chercher le vaisseau. Toi et moi, nous resterions sur Terre jusqu'à ce que nous soyons prêts à retourner. »
Aîné fit non de la tête.
« Je ne serai jamais prête à rentrer, Rol. Cette idée me fait mourir de peur. »
Je pensais à cette féroce poursuite qui nous avait lancé d'Hyperion à travers l'espace de la Pax, échappant de justesse aux astronefs, aux vaisseaux torches, aux avions de combat, aux soldats, aux gardes suisses et à Dieu sait qui d'autre, y compris à ce putain de truc sorti de l'enfer qui avait failli nous tuer sur le bosquet de Dieu. Et je dis
« Moi aussi, ma grande.
Peut-être devrions-nous rester sur Terre. Ils ne peuvent pas nous retrouver ici. »
Aîné me regarda et je reconnus cette expression. Ce n'était pas de l'entêtement. C'était une fermeture à toute discussion sur un sujet qu'elle considérait comme réglé.
D'accord, fis-je.
Mais tu ne m'as toujours pas dit pourquoi Abétic ne pourrait pas prendre ce kayak et aller récupérer le vaisseau pendant que je rentrerai par les distances avec toi.
Si, je l'ai fait. Tu n'écoutais pas.
Elle changea de position dans le grand fauteuil.
Rol, si tu pars et si nous sommes d'accord pour nous retrouver à une certaine date, à un certain endroit dans l'espace de la Pax, je dois traverser les distances et faire ce que j'ai à faire. Et ce que j'ai à faire, je dois le faire seul.
Aîné, dis-je.
Oui,
c'est vraiment stupide. Est-ce que tu le sais?
La jeune fille de 16 ans ne répondit pas. En bas, sur la gauche, quelque part dans le Kansas, un cercle de feu de camp apparut. Je contemplais les lumières au sein des ténèbres. As-tu une idée de ce que nos amis étrangers fabriquent ici?
Non. Et ce ne sont pas mes amis étrangers.
Qu'est-ce qu'ils ne sont pas? Étrangers ou amis?
Ni l'un ni l'autre.
je me rendis compte qu'elle n'en avait jamais dit autant sur les intelligences semi-divines qui avaient kidnappé l'ancienne Terre, et nous, me semblait-il à ce moment, qu'ils avaient menés et poussés comme des bestiaux dans les distances. Ça t'ennuierait de m'en dire un peu plus sur ces non-amis non-étrangers? Après tout, les choses pourraient tourner mal. Je pourrais ne jamais arriver à notre rendez-vous. J'aimerais apprendre le secret de nos hôtes avant de mourir. Je regrettais d'avoir dit cela dès que les mots furent sortis de ma bouche. Aîné recula comme si je l'avais giflé. Désolé, ma grande. Cette fois, je posai ma main sur la sienne. J'ai parlé sans réfléchir. Parce que je suis en colère. Elle hocha la tête et je vis qu'il y avait de nouveau des larmes dans ses yeux. Tout en continuant à me donner mentalement des coups de pied, je dis « Tout le monde dans la fraternité s'imaginait que les étrangers étaient des créatures bienveillantes, presque divines. Les gens disaient les lions, les tigres et les ours, mais pensaient en fait Jésus, Jéhovah et Iti. Tu sais ce vieux film que Ash Wright nous a montré ? Tout le monde était convaincu que lorsque le moment viendrait pour la confrérie de plier bagages, les étrangers apparaîtraient et nous ramèneraient à la Pax dans un grand vaisseau-mère. Pas de danger, pas d'histoire. Pas de problème. » Aîné sourit, mais ses yeux brillaient encore de larmes.
« Les humains ont toujours attendu que Jésus, Jéhovah et Iti viennent leur sauver le cul, avant même qu'ils couvrent ce cul de peau de bête et sortent de leur caverne. Il faudra qu'ils continuent à attendre. C'est notre affaire, notre guerre, et nous devrons nous en tirer tout seuls. »
Nous, c'est-à-dire toi, moi et Abétique contre 800 milliards de fidèles régénérés ? Répliquai-je doucement. Aîné refit ce geste gracieux.
Oui, pour le moment.
Quand nous arrivâmes, non seulement il faisait encore nuit, mais il pleuvait des cordes, une pluie des derniers jours de l'automne, froide, mêlée de neige fondue. Le Mississippi était un grand fleuve, le plus long de l'ancienne terre, et le vaisseau de descente décrivit un cercle avant d'atterrir dans une petite ville de la rive ouest. Je vis tout cela sur le moniteur après traitement numérique de l'image. La vue qu'offrait le pare-brise n'était que ténèbres et pluie. Nous survolâmes une grande colline couverte d'arbres dénudés, croisâmes une autoroute vide qui enjambait le Mississippi sur un pont étroit, et nous posâmes sur une zone pavée, dégagée, à une cinquantaine de mètres du fleuve. La ville s'allongeait dans la vallée entre des collines boisées, et sur le moniteur je distinguais de petites maisons en bois, des entrepôts en briques plus étendus et quelques structures très élevées près de la rivière, qui avaient peut-être été des silos à grains. Ce genre de bâtiment avait été très répandu au XIXe, XXe et XXIe siècle dans cette région de l'ancienne terre. Je me demandais pourquoi les tremblements de terre et les incendies des tribulations avaient épargné cette ville, ou pourquoi les lions, les tigres et les ours l'avaient reconstruite, si tel était le cas. Il n'y avait pas le moindre signe de population dans les rues étroites, ni de signature thermique sur les bandes infrarouges. Pas de créatures vivantes, pas de véhicules de surface au système de propulsion à combustion interne tellement chaud, mais il était presque 4h30 du matin, par une nuit froide et pluvieuse. Personne ayant un minimum de bon sens ne serait sorti par un temps aussi moche, aussi infect. Nous enfilâmes nos ponchos, je m'emparai de mon sac à dos et dis « Un de ces jours, vaisseau. Prends modèle sur moi !» Nous descendîmes les marches morphées et plongeâmes sous la pluie. Lors de notre précédente équipe effluviale, j'avais de grosses lunettes à infrarouge, un assortiment d'armes et un radeau plein de gadgets en tout genre. Cette nuit, je n'emportais que la torche laser, la seule chose qui nous restait de notre voyage jusqu'à la Terre. Sur son mode le plus faible, le plus économique, elle éclairait 2 mètres de rue luisante de pluie. Un couteau de chasse Navarro, plus quelques sandwichs et des fruits secs rangés dans mon sac. J'étais prêt à affronter la Pax.
Cet endroit, c'est quoi ? Demandai-je.
Hannibal, répondit Aîné qui s'efforçait de ne pas lâcher le kayak glissant tandis que nous descendions la rue en trébuchant. Je dus alors tenir la lampe de poche entre mes dents afin de saisir à deux mains la proue de ce stupide petit bateau. Lorsque nous atteignîmes l'endroit où la rue devenait une rampe de chargement, aboutissant au torrent noir du Mississippi, je posai le kayak, récupérai la lampe et dis « Saint-Pétersbourg ». J'avais passé des centaines et des centaines d'heures à lire dans la riche bibliothèque de la confrérie, composée de livres imprimés. Je vis la tête encapuchonnée acquiescer à la lueur réfléchie du rayon de la lampe.
« C'est fou !»
dis-je en balayant du faisceau de la torche la rue vide, le mur de briques des entrepôts, la rivière sombre. La course précipitée de l'eau noire était effrayante. Toute idée de s'y abandonner me parut démente.
Oui, c'est fou.
La pluie froide fouettait la capuche de son poncho. Je contournai le kayak et la pris par le bras.
Tu vois l'avenir.
Quand nous reverrons-nous?
Sa tête était penchée.
Je n'apercevais qu'à peine la lueur de sa joue pâle dans le faisceau de la lampe. Le bras que je serrais à travers la manche de son vêtement aurait aussi bien pu être la branche d'un arbre mort tant j'y sentais peu de vie. Elle répondit trop bas pour que je comprenne à cause du bruit de la pluie et de la rivière.
Pardon? Je dis que je ne vois pas l'avenir. Je m'en souviens en partie.
Quelle différence cela fait-il? Aîné soupira et se rapprocha. Il faisait assez froid pour que nos souffles se mêlent réellement dans l'air. Je sentis en moi un afflux d'adrénaline dû à l'inquiétude, à la peur et à l'appréhension.
Voir, c'est une sorte de clarté, et se souvenir, c'est... autre chose.
Je secouai la tête. La pluie me coula dans les yeux.
Je ne comprends pas. Roll, tu te souviens du dernier anniversaire de Beth Skimball? Quand Jaef s'est mis au piano et que Kiki s'est saoulé à mort?
Oui, répondis-je, agacé par cette discussion en plein milieu de la nuit, sous une averse, au moment de nous dire adieu.
Quand était-ce?
Qu'est-ce que tu veux dire?
Quand était-ce? Répéta-t-elle.
Derrière nous, le Mississippi sortait des ténèbres pour y plonger de nouveau à la vitesse d'un train en lévitation magnétique. En avril? Début mai? Je ne sais pas. La silhouette encapuchonnée hocha la tête.
Et qu'est-ce que Ashwright portait ce soir-là?
Je n'avais jamais éprouvé le désir de gifler ou de fesser ou d'injurier aîné.
Jusqu'à cet instant. Mais comment veux-tu que je le sache? Pourquoi est-ce que je me le rappellerai? Essaie.
Je poussai un gros soupir et regardai au loin les collines sombres dans la nuit noire.
Merde, j'en sais rien. Son costume gris, en laine.
Oui, je le revois dedans, debout à côté du piano. Le costume gris avec de gros boutons.
Aîné hocha de nouveau la tête. On a fêté l'anniversaire de Betts à la mi-mars,
dit-elle plus fort que le crépitement de la pluie sur nos capuches.
Ashwright n'est pas venu parce qu'il était enrhumé.
Et alors? Dis-je, sachant très bien où elle voulait en venir.
Alors je me souviens de bribes du futur,
répéta-t-elle, et sa voix semblait proche de mes oreilles.
Je n'ose pas me fier à ces souvenirs. Si je te dis quand nous nous reverrons, ce pourrait être comme le costume gris de Ashwright.
Je gardai le silence pendant une longue minute. La pluie tambourinait telle de minuscules doigts sur des cercueils fermés. Pour finir, je dis
« D'accord ».
Aîné fit deux pas et mit les bras autour de moi. Nos ponchos crissèrent l'un contre l'autre. Tandis que nous nous étreignions, je sentis la contraction de son dos et la douceur nouvelle de sa poitrine. Elle recula.
Puis-je avoir la lampe de poche un moment?
Je la lui tendis. Elle releva le tablier de nylon du minuscule cockpit du kayak et éclaira l'étroite bande de bois poli qui courait sous la fibre de verre. Un unique bouton rouge, protégé par un panneau transparent, luisait sous la pluie.
« Tu vois ça ?»«
Oui. »«
N'y touche surtout pas. »
Je reconnais qu'alors j'éclatais de rire. Parmi toutes les choses que j'avais lues dans la bibliothèque de Taliesin, il y avait des pièces du théâtre de l'absurde, comme En attendant Godot. J'eus l'impression que nous nous étions échoués sur quelques latitudes de l'absurde et du surréel.
« Je suis sérieuse. »
« Pourquoi mettre un bouton là s'il faut pas y toucher ?» dis-je en essuyant la pluie qui dégouttait de mon visage. La silhouette encapuchonnée secoua la tête.
« Je veux dire, n'y touche pas jusqu'à ce que tu sois absolument obligé de le faire. »
« Comment saurais-je que le moment est venu, ma grande ?»«
Tu le sauras, »
répondit-elle. Et elle me serra de nouveau dans ses bras.
« Nous ferions mieux de mettre ça à l'eau. »
Je me penchai alors pour déposer un baiser sur son front. J'avais fait cela des douzaines de fois ces dernières années, en lui souhaitant bonne chance avant l'une de ses retraites, en l'abordant dans son lit, pour baiser son front moite et froid lorsqu'elle était fiévreuse ou épuisée de fatigue. Mais lorsque je me penchais pour l'embrasser, Aîné leva le visage et, pour la première fois depuis que nous nous étions rencontrés au sein des tourbillons de sable et de la confusion dans la vallée des tombeaux du temps,
je la baisai sur les lèvres.
Je crois avoir déjà mentionné que le regard d'aîné est bien plus puissant et intime que l'attouchement de la plupart des gens, et que lorsqu'elle vous touche, vous éprouvez comme une secousse électrique. Ce baiser était au-delà de tout cela. J'avais 32 ans ce soir-là sous la pluie, dans l'obscurité, à Hannibal, sur la rive ouest du fleuve appelé Mississippi, sur le monde appelé autrefois la Terre, perdu maintenant quelque part dans le petit nuage de Magellan, et je n'avais jamais éprouvé de sensation semblable à ce premier baiser. La surprise me fit reculer. La torche laser posée entre nous était tournée vers le haut, et j'aperçus une lueur dans ses yeux noirs. De malice peut-être, de soulagement peut-être, comme si une longue attente avait pris fin et de quelque chose d'autre.
« Au revoir, Roll, »
dit-elle, et elle souleva une des extrémités du kayak. L'esprit vacillant, je déposai la proue dans l'eau noire, au bout de la rampe, et me glissai dans le cockpit. Abétic l'avait confectionné pour moi comme un vêtement bien taillé. Je m'assurai que je n'appuierais pas sur le bouton rouge en pagayant. Aînée me poussa et le kayak flotta dans 20 cm d'eau. Elle me tendit la pagaie double, puis mon sac à dos et la torche laser. Je dirigeai le faisceau vers l'eau noire entre nous. « Où est le portail d'Istrans ?» demandai-je. J'entendis les mots venir de loin, comme si un troisième interlocuteur avait parlé. Mon esprit et mes émotions essayaient encore d'assimiler ce baiser. J'avais 32 ans. Cet enfant venait d'en avoir 16. Ma tâche, c'était de la protéger et de la garder en vie jusqu'à ce que nous retournions un jour sur Hyperion auprès du vieux poète. C'était de la démence.
« Tu verras, » dit-elle. « Un peu après le lever du jour. »
Dans plusieurs heures, alors. C'était le théâtre de l'absurde. « Et que devrais-je faire quand j'aurai récupéré le vaisseau? Où est-ce que nous nous retrouverons ?»«
Il y a un monde appelé Tien Shan, » répondit Aîné. « Cela veut dire montagne du ciel. Le vaisseau saura comment le trouver.
C'est dans l'espace de la Pax ?»«
Tout juste. »
Son haleine resta suspendue dans l'air glacé.
Il se trouvait aux confins de l'hégémonie. La Pax l'a incorporé au protectorat en promettant d'envoyer des missionnaires, mais il n'a pas encore été soumis.
« Tien Shan, » répétai-je. « Bien. Comment te retrouverai-je? Une planète, c'est grand. » Je voyais ses yeux noirs dans le faisceau sautillant de la lampe. Ils étaient mouillés de pluie ou de larmes, ou des deux.
« Cherche une montagne appelée Heng Shan, la montagne sacrée du Nord. Près de là, il y a un endroit appelé Swan Kung Su. Cela signifie le temple suspendu dans les airs. Je devrais y être. »
Je fis du poing un geste grossier.
« Super. Tout ce que j'ai à faire, c'est de m'arrêter à une caserne de la Pax pour leur demander où se trouve le temple suspendu dans les airs et tu seras là à m'attendre. » « Il n'y a que quelques milliers de montagnes sur Tien Shan, »
dit-elle d'une voix monotone et malheureuse.
« Et seulement quelques cités. Le vaisseau peut localiser Heng Shan et Swan Kung Su depuis son orbite. Tu ne pourras pas y atterrir, mais tu débarqueras.
« Mais pourquoi ne pourrais-je pas y atterrir ?» demandai-je, irrité par tous ces puzzles dans des énigmes à l'intérieur de messages codés.
« Tu verras bien, Roll !»
dit-elle d'une voix aussi emplie de larmes que ses yeux l'avaient été.
« Je t'en prie, pars !»
Le courant essayait de m'emporter, mais je pagayais pour maintenir le petit kayak léger sur place. Aîné marcha sur la rive pour rester à ma hauteur. Le ciel semblait s'éclaircir un peu à l'est.
« Es-tu certaine que nous nous reverrons ?»
criai-je dans la pluie qui diminuait.
« Je ne suis certaine de rien, Roll !»«
Pas même que nous survivrons à ça ?» Je ne savais pas bien ce que je voulais dire par ça. Je ne suis même pas sûr de ce que je voulais dire par survivre.
« Surtout pas à ça !»
dit la jeune fille, et je vis le sourire familier empreint de malice, d'appréhension et d'une sorte de tristesse pleine de sagesse involontaire. Le courant m'emportait.
« Combien de temps va-t-il me falloir pour retrouver le vaisseau ?»« Seulement quelques jours, je crois »
cria-t-elle. Plusieurs mètres nous séparaient maintenant, et le courant m'entraînait vers le milieu du fleuve.
« Et quand je l'aurai récupéré, combien de temps me faudra-t-il pour arriver à Tien Shan ?
Aîné cria la réponse, mais elle se perdit dans le clapotement des vagues contre la coque de mon petit kayak.
« Quoi ? »
hurlai-je.
« Je ne t'ai pas entendu !»«
Je t'aime !»
cria Aîné, et sa voix était claire et brillante par-delà l'eau noire. Le fleuve m'emportait. Je ne pouvais pas parler. Mes bras ne réagirent pas lorsque je pensais enfin à pagayer contre le courant puissant.
« Aîné !»
Je dirigeai ma lampe vers le rivage, saisis un reflet de son poncho dans le faisceau, le pâle ovale de son visage dans l'ombre de la capuche.
« Aîné !»
Elle cria quelque chose, fit de grands signes. Moi aussi. Le courant était très fort. Je pagayais violemment pour éviter d'entrer en collision avec un arbre entier échoué sur un banc de sable, puis me retrouvais dans le courant central, emporté vers le sud. Je jetai un regard en arrière, mais les murs des derniers bâtiments d'Hannibal masquaient ma chère aînée. Une minute plus tard, j'entendis les répulseurs EM du vaisseau de descente et quand je levai les yeux, je n'aperçus qu'une ombre. C'était peut-être elle en train de décrire un cercle, ou un nuage bas dans la nuit. La rivière m'entraîna vers le sud. Chapitre 5. Le père capitaine de Soya quitta le système de Passem à bord du VSS Ragel, un croiseur de classe Archange semblable au vaisseau dont on lui avait ordonné de prendre le commandement. Tué par le terrible vortex de la propulsion instantanée, classée secrète, connue de la flotte de la Pax sous le nom de propulsion Gédéon, de Soya fut ressuscité en 2 jours au lieu des 3 habituels. Les chapelains prirent le risque accru d'une résurrection ratée à cause de l'insistance des ordres du père capitaine. Et se retrouva sur la station de déploiement stratégique de la flotte de la Pax, Omicron 2 Epsilon 3, en orbite autour d'un monde rocheux, dépourvu de vie, tournoyant dans les ténèbres au-delà d'Epsilon Eridani, dans l'ancien voisinage, à une poignée d'années-lumière seulement de l'endroit où la Terre se trouvait autrefois. De Soya ne disposa que 1 jour pour récupérer ses facultés, et fut ensuite expédié à l'aire de largage spatial d'Omicron 2 Epsilon 2, à 100 000 clics de la base militaire. L'enseigne qui pilotait la navette fit un détour pour que le père capitaine de Soya puisse jeter un coup d'œil sur son nouveau vaisseau et, en dépit de lui-même, ce dernier fut enivré par ce qu'il vit. Le VSS Raphaël relevait visiblement d'une technologie de pointe et ne dérivait plus, comme tous les précédents vaisseaux de la Pax que de Soya connaissait, des conceptions, redécouvertes, de l'hégémonie avant la chute. La configuration générale semblait trop dépouillée pour fonctionner dans le vide et trop complexe pour l'atmosphère, mais l'effet global était celui d'une puissance de mort aérodynamique. La coque, un composé d'alliages morphables et de zones d'énergie pure fixée, permettait des changements rapides de forme et de fonction impossibles quelques années plus tôt. Tandis que la navette croisait le Raphaël selon un arc balistique long et lent, De Soya regarda le grand vaisseau passer de l'argenté, du chrome, au noir mat de la quasi-invisibilité, disparaissant pratiquement à la vue. En même temps, plusieurs baumes d'instruments et niches de séjour furent avalées par la coque centrale lisse, jusqu'à ce que seuls subsistent les renflements des armes et les sondes des champs de confinement. Soit le vaisseau se préparait à vérifier le bon fonctionnement de la translation hors système, soit les officiers du bord savaient très bien que la navette qui passait transportait leur nouveau commandant et ils voulaient lui en mettre plein la vue. De Soya savait que les 2 hypothèses étaient presque certainement valables. Avant que le croiseur s'évanouît dans l'oubli, De Soya remarqua que les sphères de propulsion à fusion avaient été groupées comme des perles autour de l'axe central de l'astronef, au lieu d'être concentrées en une unique bosse, comme sur son vaisseau torche, le Balthazar. Il nota aussi que la batterie hexagonale du propulseur Gédéon était bien plus petite que celle du prototype du Raphaël. Avant que le vaisseau devienne invisible, il aperçut les lumières rougeoyantes des niches de séjour translucides rétractées et du dôme clair du pont de commandement. Pendant un combat, De Soya le savait par ses lectures faites sur Passem et les injections d'ARN d'instruction qu'il avait reçues au quartier général de la flotte, que ces zones transparentes morpheraient des épidermes plus épais et blindés, mais voir cela de ses propres yeux lui avait toujours fait plaisir et il apprécierait la fenêtre quand il serait dans l'espace.
« Nous arrivons à l'Uriel, capitaine.
dit l'enseigne pilote. De Soya hocha la tête. Le VSS Uriel semblait être le clone du nouveau Raphaël. Mais lorsque la navette décéléra pour s'en approcher, le père capitaine put identifier les générateurs à lame oméga supplémentaire, les niches de conférences rutilantes que l'on avait ajoutées, et les antennes com plus complexes qui faisaient de cet astronef le vaisseau amiral du corps expéditionnaire.
« Signal d'amarrage, capitaine !»
dit l'enseigne. De Soya hocha la tête et s'allongea sur la couchette d'accélération numéro 2. La jonction fut assez douce pour qu'il ne ressente aucune secousse lorsque les colliers de raccordement se refermèrent, que la peau et les ombilicaux du vaisseau se morfèrent autour de la navette. De Soya fut tenté de féliciter la jeune enseigne, mais les anciennes habitudes de commandement s'imposaient de nouveau à lui.
« La prochaine fois, dit-il, essayez d'effectuer l'approche finale sans ce jet de freinage à la dernière seconde. C'est du chiquet et les huiles d'un vaisseau amiral n'apprécient pas. »
Le visage de la jeune pilote s'assombrit. De Soya posa la main sur son épaule.
À part cela, c'était du bon travail. Je vous prendrai n'importe quand à bord de mon astronef comme pilote de vaisseau de descente.
L'enseigne dépitée s'éclaira.
Je le souhaite, capitaine. Le service à bord de la station...
Elle se tut, réalisant qu'elle était allée trop loin.
Je sais, dit-il debout près du sas. Je sais. Mais pour le moment... « Réjouissez-vous de ne pas participer à cette croisade. »
Le sas s'ouvrit, et un membre de la garde d'honneur l'aida à passer à bord de l'Uriel. L'archange que l'Ancien Testament présentait, si les souvenirs du père capitaine de Soya étaient bons, comme le chef des armées célestes. À 95 années-lumière de là, dans un système solaire situé à seulement 3 années-lumière de Passem, le premier Raphaël se translata dans l'espace réel avec une violence qui aurait fait gicler la moelle des os humains, qui aurait traversé les cellules humaines comme une lame brûlante dans une toile de fil de la Vierge, et envoyé valser les neurones tels des billes égarées sur un coteau abrupt. La sensation ne ravit pas Radamante Némès et ses frères et sœurs, mais aucun ne cria ni ne fit la grimace.
« Où est-ce qu'on est ?» dit Némès en regardant une planète brune grandir sur l'écran.
Le Raphaël était en train de décélérer sous 230G. Némès n'était pas installé dans la couchette d'accélération, mais s'accrochait à un étançon avec l'aisance désinvolte d'une banlieusarde se rendant au travail dans un autobus bondé.
« Svoboda !» répondit l'un des deux mâles.
Némès hocha la tête. Aucun des quatre ne dit mot jusqu'à ce que l'archange se fût mis en orbite et que le vaisseau de descente se détacha et traversa en rugissant l'atmosphère ténue.
« Il sera là ?» demanda Némès.
Des microfilaments couraient tout droit de ses tempes à la console du vaisseau.
« Oh oui !» répliqua sa jumelle.
Quelques êtres humains vivaient sur Svoboda, mais depuis la chute, ils s'étaient réunis dans des dômes de champs de force sur la zone crépusculaire et ne possédaient pas de technologie capable de déceler l'arrivée de l'archange ou de son vaisseau de descente. Il n'y avait pas de base de la Pax dans ce système. Alors que la face de ce monde rocheux exposé au soleil bouillait jusqu'à ce que le plomb coulât comme de l'eau, l'atmosphère ténue de la face sombre gelait presque. À l'intérieur de la planète stérile coulaient plus de 800 000 km de tunnels, chaque couloir dessinant un carré parfait de 30 mètres de côté. Svoboda était l'une des 9 planètes labyrinthiennes découvertes au premier jour de l'Égir et explorées pendant l'hégémonie. Hyperion faisait partie de ces 9 mondes. Aucun être humain, vivant ou mort, ne connaissait le secret des labyrinthes ou de leur créateur. Némès pilota le vaisseau de descente au sein d'une tempête d'ammoniac décapante sur la face sombre, resta un instant suspendu devant une falaise de glace visible seulement sur les écrans d'amplification à infrarouge, puis replia les ailes du véhicule et le fit pénétrer dans l'orifice carré de l'entrée du labyrinthe. Ce tunnel tournait une fois, puis s'étendait en ligne droite sur des kilomètres. Un radar de profondeur révéla, en dessous, d'autres passages en nid d'abeilles. Némès avança tout droit pendant 3 clics, puis tourna à gauche au premier carrefour des tunnels, descendit à 1/2 km de la surface tout en filant pendant 5 clics vers le sud, puis elle se posa. Ici, l'infrarouge ne décelait qu'une faible trace de chaleur venant des cheminées de lave, et les amplificateurs ne montraient rien sur le moniteur.
fronçant les sourcils devant les résultats de l'affichage radar, Némès alluma les lumières extérieures du vaisseau de descente. Aussi loin qu'elle pouvait voir dans le couloir infiniment rectiligne, on avait taillé dans les murs du tunnel une rangée de dalles de pierre horizontales. Sur chacune reposait un corps humain nu. Les dalles et les corps se succédaient sans fin au sein des ténèbres. Némès jeta un coup d'œil à l'affichage du radar de profondeur. Les niveaux les plus bas étaient également striés de dalles et de corps. « Sortons !» dit le clone mâle qui avait tiré Némès de la lave sur le bosquet de Dieu. Némès ne se donna pas la peine de faire fonctionner le sas. L'air se précipita hors du vaisseau de descente avec un rugissement d'agonie. Il y avait un soupçon de pression dans la caverne, assez pour que l'IA n'ait pas à changer de face pour survivre, mais l'air était plus ténu que sur Mars avant que la planète soit terraformée. Les senseurs personnels de Némès indiquèrent que la température restait stable à moins de 162 degrés centigrades. Dehors, une silhouette humaine attendait dans le flot de lumière du vaisseau. « Bonjour, » dit le conseiller Albedo. L'homme grand était impeccablement habillé d'un costume gris taillé à la dernière mode de Passem. Il communiquait directement sur la bande de 75 MHz. Sa bouche ne remuait pas, mais son sourire révélait des dents parfaites. Némès et ses frères et sœurs attendirent. Elle savait qu'il n'y aurait plus ni réprimande ni châtiment. Les trois secteurs la voulaient vivante et en bon état de fonctionnement. La fille est née, est revenue dans l'espace de la Pax, dit Albedo.
Où ?
Demanda la sœur de Némès. Il y avait quelque chose comme de l'impatience dans le ton monotone de sa voix. Le conseiller ouvrit les mains en un geste d'impuissance.
« Le portail, commença Némès, ne nous dit rien cette fois, compléta Albedo. Son sourire n'avait pas vacillé.
Némès se renfrogna. Pendant les siècles du réseau mondial de l'hégémonie, les trois secteurs de la conscience du centre n'avaient pas découvert le moyen d'utiliser le portail du vide, cette interface instantanée que les humains appelaient les distrans, sans laisser une trace de neutrinos modulés dans les replis de la matrice.
« L'autre chose, » dit-elle.
« Évidemment. » Albedo fit de la main un petit geste rapide comme pour écarter le segment inutile de cette conversation.
« Mais nous pouvons tout de même enregistrer la connexion. Nous sommes à peu près sûrs que la fille est parmi ceux qui reviennent de l'ancienne Terre par le réseau des anciens distrans. « Il y en a d'autres, » dit le mâle. « Quelques-uns d'abord. Davantage maintenant. Au moins 50 activations selon le dernier compte. »
Némès croisa les bras.
« Croyez-vous que l'autre chose est en train de mettre fin à l'expérience ancienne Terre ?»«
Non. » Albedo s'approcha de la dalle la plus proche et regarda le corps humain nu qui y reposait. C'était une jeune femme d'environ 17 ou 18 ans standard, aux cheveux roux. Du givre blanc recouvrait sa peau pâle et ses yeux ouverts.
« Non, » répéta-t-il. « Les secteurs disent tous que seul le groupe d'aînés revient. Que devons-nous faire pour la retrouver ?»
demanda la sœur de Némès, réfléchissant tout haut sur la bande de 75 MHz.
« Nous pouvons nous translater sur tous les mondes qui avaient un distrans durant l'hégémonie et interroger les portails nous-mêmes. »
Albedo hocha la tête.
L'autre chose peut dissimuler les destinations distrans, mais le centre est presque certain qu'elle ne peut pas cacher le fait que la matrice s'est repliée. Presque certain.
Némès remarqua le modificateur inhabituel des perceptions du technocentre.
Nous voulons que vous...
commença Albedo en pointant le doigt sur la jumelle. Le secteur stable ne vous a pas attribué de nom, n'est-ce pas ?
Non.
Une frange sombre tombait mollement sur le front pâle. Aucun sourire n'effleurait les lèvres minces. Albedo gloussa sur la bande de 75 MHz.
Radamante Némès avait besoin d'un nom afin de se faire passer pour un membre humain de l'équipage du Raphaël.
Je pense que vous devriez tous en avoir un, même si ce n'est que pour me simplifier les choses.
Il montra la femelle du doigt.
Scylla. Puis, le pointant sur chaque mâle à tour de rôle, il dit « Gigès ». Briare. Aucun des trois ne réagit à son baptême, mais Némès croisa les bras et fit remarquer
« Est-ce que cela vous amuse, conseiller ?»
Oui. Autour d'eux, l'atmosphère évacuée du vaisseau de descente serpentait et se tordait comme un brouillard maléfique. Le mâle, appelé dorénavant Briare, dit
« Nous garderons cet archange comme moyen de transport et entamerons nos recherches sur les anciens monts du Retz en commençant, je suppose, par les planètes du fleuve Tétis. »
« Oui, » dit Albedo. Scylla tapota de ses ongles le tissu gelé de sa combinaison.
« Avec quatre vaisseaux, les recherches iraient quatre fois plus vite. »
« Évidemment, » répliqua Albedo. « Plusieurs raisons nous ont amenés à rejeter cette tactique, la première étant que la Pax a peu d'archanges disponibles à nous prêter. » Némès haussa un sourcil.
« Et depuis quand le centre demande-t-il à la Pax la permission de prendre quelque chose ?»«
Nous avons besoin de leur argent, de leurs usines et de leurs ressources humaines pour construire les vaisseaux, » répondit Albedo sans emphase. « La seconde raison, rédhibitoire celle-là, c'est que nous voulons que vous restiez tous les quatre ensemble, au cas où vous rencontreriez quelqu'un ou quelque chose que l'un de vous ne pourrait pas maîtriser seul. »
Le sourcil de Némès resta levé.
Elle s'attendait à ce que le conseiller rappelle son échec sur le bosquet de Dieu, mais ce fut Gigès qui prit la parole.
« Qu'est-ce que dans la Pax nous ne pourrions pas maîtriser, conseiller ?»
De nouveau, l'homme gris retourna ses paumes ouvertes vers le ciel. Derrière lui, les volutes du brouillard dissimulaient, puis révélaient, les corps blêmes sur les dalles.
« Le Gretsch, » répondit-il.
Némès émit un bruit insolent sur la bande de 75 MHz.
J'ai vaincu cette chose d'une seule main.
Albedo fit non de la tête. Le sourire exaspérant restait figé sur ses lèvres.
Non. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez utilisé l'appareil hyperanthropique que nous vous avons fourni pour l'envoyer à 5 minutes dans l'avenir. Ce n'est pas la même chose que de le vaincre. L'IU ne maîtrise plus le Gritch ? Demanda Briare.
Albedo leva ses paumes ouvertes pour la dernière fois. Les dieux de l'avenir ne nous chuchotent plus rien, mon goûteux ami. Ils se battent entre eux et la clameur de leur guerre se répercute jusqu'à nous dans le temps. Pour que l'œuvre de notre dieu s'accomplisse à notre époque, nous devons le faire nous-mêmes.
Il regarda les quatre clones.
« Vous avez bien compris les instructions ?»«
Retrouvez la fille, » dit Scylla.
« Et ?» demanda le conseiller.
« La tuer aussitôt, » répliqua Gigès. « Sans hésiter. »«
Et si ses disciples s'interposent ?» dit Albedo en souriant plus largement d'une voix qui caricaturait celle d'un enseignant humain.
« Les tuer, » répondit Briare.
Et si le Gritch apparaît ?
Poursuivit le conseiller dont le sourire s'évanouit soudain. Le détruire, confirma Némès.
Albedo hocha la tête. Une dernière question avant que nous partions chacun de notre côté.
Combien d'humains y a-t-il ?
Demanda Scylla. Elle désigna d'un geste les dalles et les corps. Le conseiller Albedo se caressa le menton.
« Quelques dizaines de millions dans ce monde du labyrinthe, dans cette partie des tunnels.
Mais il existe beaucoup d'autres tunnels ici. » Il sourit de nouveau.
« Et 8 autres mondes du labyrinthe. »
Némès tourna lentement la tête, étudiant le brouillard qui tourbillonnait et la rangée de dalles de pierre qui s'estompaient à différents niveaux du spectre. Aucun décor ne montrait un signe quelconque de chaleur supérieure à la température ambiante du tunnel.
« Et c'est l'œuvre de la Pax, »
dit-elle. Albedo gloussa sur la bande de 75 MHz.
« Bien sûr. »
« Pourquoi les 3 secteurs de la conscience ou notre futur IU voudraient-ils stocker des corps humains ?» Il s'approcha de la jeune femme rousse et tapota sa poitrine gelée. L'air de la grotte était trop ténu pour porter le son, mais Némès imagina le bruit du marbre froid frappé par des ongles. « D'autres questions ?» demanda Albedo. « J'ai une réunion importante. » Sans un mot sur la bande de 75 MHz ou sur une autre, les quatre frères et sœurs tournèrent le dos et remontèrent dans le vaisseau de descente. 20 officiers de la flotte étaient rassemblés dans la tourelle du centre de conférence tactique de l'Uriel, y compris tous les capitaines et les seconds du corps expéditionnaire Gédéon. Parmi ces derniers, il y avait le commandant Hogan Hogue Liebler, 36 ans standard, régénéré depuis son baptême sur Renaissance mineure. Ce rejeton de l'ex-grande famille Liebler, dont les terres couvraient environ 2 millions d'hectares et dont la dette courante atteignait presque 5 marks l'hectare, avait mis sa vie privée au service de l'Église et livré sa vie professionnelle à la flotte de la Pax. C'était aussi un espion et un assassin éventuel. Liebler leva des yeux pleins d'intérêt lorsque son nouveau commandant reçut les honneurs du sifflet en montant à bord de l'Uriel. Tout le monde dans le corps expéditionnaire, presque tous les membres de la flotte de la Pax, avait entendu parler du père capitaine de Soya. 5 ans auparavant, on avait confié à l'ex-commandant de vaisseau torche un disque papal, donc une autorité presque illimitée, pour réaliser un projet secret, mais il avait échoué dans sa mission. Personne ne savait vraiment quelle avait été cette dernière, mais en utilisant ce disque papal, De Soya s'était fait des ennemis parmi les officiers de la flotte en différents endroits de la Pax. L'échec qui s'ensuivit et la disparition du père capitaine avaient fait courir encore plus de rumeurs dans les carrés des officiers et les bureaux des états-majors de la flotte. Selon la théorie la plus répandue, il aurait été livré au Saint-Office, excommunié sans tapage et probablement exécuté. Mais aujourd'hui, il était là, aux commandes d'un des atouts les plus précieux de l'arsenal de la flotte, l'un des 21 croiseurs archanges en service. Son apparence surprit Liebler. De Soya était petit et brun, avec de grands yeux tristes qui auraient mieux convenu à l'icône d'un saint martyr qu'à un capitaine de cuirassé. L'amiral Aldi Cacti, la Lusienne Rabelais chargée à la fois de cette réunion et du corps expéditionnaire, fit rapidement les présentations.
« Père capitaine de Soya !»
dit-elle lorsque le commandant prit place à la table circulaire grise, au milieu de la pièce circulaire.
« Je crois que vous connaissez déjà certains de ces officiers. »
L'amiral était aussi célèbre pour son manque de tact que pour sa férocité dans la bataille.
« La mère capitaine Stone est une vieille amie, » répondit de Soya en saluant d'un signe de tête son ex-second. Le capitaine Hearn faisait partie de mon dernier corps expéditionnaire et j'ai déjà rencontré le capitaine Sati et le capitaine Lamprière. J'ai aussi eu l'honneur de travailler avec les commandants Uchikawa et Barnes Avni.
L'amiral poussa un grognement.
Le commandant Barnes Avni représente ici les fusiliers marins et les gardes suisses du corps expéditionnaire Gédéon. Connaissez-vous votre second, père capitaine de Soya?
Il fit non de la tête, et Aldi Cacti lui présenta Liebler, qui fut surpris par la vigueur de la poigne du minuscule père capitaine et l'autorité de son regard. Dieu de martyr ou pas, cet homme a l'habitude de commander, pensa Hogue.
Bon,
grommela l'amiral Aldi Cacti.
Commençons. Le capitaine Sati va nous présenter les instructions.
Durant les 20 minutes qui suivirent, la tourelle de conférence fut embrumée par les holos et les tracés de trajectoire. Les persocs et les scripteurs se remplissaient de données et de notes gribouillées. On n'entendait que la voix douce de Sati, excepté les rares questions ou demandes d'explication. Liebler prenait des notes, surpris par la portée de la mission du corps expéditionnaire Gédéon et absorbé par la tâche de tout second, emmagasinait tous les faits et les détails saillants que le capitaine désirerait peut-être voir plus tard. Gédéon était le premier corps expéditionnaire composé uniquement de croiseurs classe archange. 7 archanges étaient affectés à cette mission. On avait expédié plusieurs mois à l'avance des vaisseaux torches conventionnels classe Hawking à leur premier point de sortie dans les confins, à quelques 20 années-lumière en dehors de la sphère défensive du Grand Mur, afin qu'ils participent à une simulation de bataille,
Mais après ce premier saut, le corps expéditionnaire des sept archanges devrait opérer seul.
La marche du général Sherman en Géorgie, pendant la guerre civile de l'Amérique du Nord pré-égyrienne au XIXe siècle, constituerait un bon exemple de ce que nous devrons faire, dit le capitaine Satie, poussant ainsi la moitié des officiers présents à taper sur les disques de leur persoc pour éclairer ce petit arcane de l'histoire militaire.
Jusqu'à aujourd'hui, poursuivit Satie, nos batailles avec les extros se sont déroulées dans le No Man's Land du Grand Mur, ou en lisière soit de la Pax, soit de l'espace extro. Très peu d'expéditions ont pénétré dans le territoire des extros.
Satie s'arrêta un moment.
Il y a 5 années standard, le corps expéditionnaire mage du père capitaine de Soya y pénétra plus profondément que toutes les autres.
Un commentaire là-dessus, père capitaine ?
Demanda l'amiral Aldikakti. De Soya hésita un instant.
Nous avons brûlé un anneau de forêt orbitale, finit-il par dire. Il n'y a pas eu de résistance.
Og Libler se dit que la voix du père capitaine semblait vaguement honteuse. Satie hocha la tête d'un air satisfait.
Nous espérons que ce sera le cas pour cette mission. Nos services de renseignement pensent que les extros ont déployé l'immense majorité de leurs forces défensives sur la sphère du Grand Mur, ne laissant que très peu de résistance armée au cœur de leur zone colonisée extérieure à la Pax. Pendant près de 3 siècles, ils ont distribué leurs forces armées, leurs bases et leurs systèmes habités en tenant compte des limitations inhérentes à la technologie de la propulsion Hawking comme facteur primaire déterminant.
Des holotactiques emplirent la tourelle de conférence.
L'argument habituel, poursuivit Satie, c'était de dire que la Pax avait l'avantage de ses lignes internes de transport et de communication, alors que les extros disposaient, en tant que force défensive, de l'éloignement et de la possibilité de se dissimuler. Une profonde pénétration de l'espace extro était quasiment impossible à cause de la vulnérabilité de nos voies de ravitaillement et de la tendance des extros à frapper et à fuir avant l'arrivée de notre force supérieure, attaquant plus tard, souvent avec un effet dévastateur, quand nos forces expéditionnaires s'aventuraient trop loin du Grand Mur.
Satie s'arrêta et regarda les officiers autour de la table.
Mesdames et messieurs, ces temps sont terminés.
D'autres holos brumeux se solidifièrent. La ligne rouge de la trajectoire aller et retour du corps expéditionnaire Gédéon hors de la Pax trancha entre les soleils comme un couteau laser.
Notre mission est de détruire toute base de ravitaillement et toute colonie extro que nous rencontrerons,
dit Satie dont la voix douce prit de l'ampleur.
Les fermes des comètes, les villes en boîte de conserve, les cambrousses, les bases Thor, les essaims au point L, les anneaux de forêt orbitale, les astéroïdes d'éclosion, les ruches bulles, tout.
Y compris les anges civils ? Demanda le père capitaine de Soya. Og Libler cligna des yeux à la question de son commandant. La flotte de la Pax appelait en privé les mutants à ADN modifié, adaptés à l'espace, les anges de Lucifer, habituellement contractés en anges avec un humour frôlant le blasphème, mais la phrase était rarement utilisée devant les officiers supérieurs. L'amiral Aldikakti répondit.
« Surtout les anges, père capitaine. Sa sainteté, le pape urbain, a qualifié notre mission contre ces simulacres inhumains que les extros ont engendrés dans les ténèbres de croisade. Sa sainteté a déclaré, dans son encyclique de la croisade, que ces mutations impies devaient être éliminées de l'univers de Dieu. Il n'y a pas de civil extro. Avez-vous des difficultés à comprendre cette directive, père capitaine de Soya ?
Les officiers autour de la table parurent retenir leur souffle jusqu'à ce qu'il finît par répondre.
« Non, amiral Aldikakti, je comprends l'encyclique de sa sainteté. »
La séance d'instruction se poursuivit.
Ces croiseurs classe archange participeront aux opérations. L'Uriel, vaisseau amiral, le Raphaël, le Michel, le Gabriel, le Raguel, le Rémiel et le Sariel. Ils utiliseront leur propulseur Gédéon pour effectuer le saut instantané jusqu'au système suivant. Prendront 2 jours ou plus pour décélérer, laissant ainsi le temps qu'il faut à la résurrection de l'équipage.
Sa sainteté nous a accordé la permission d'utiliser les nouvelles crèches au cycle de régénération de 2 jours, qui offre une probabilité de résurrection de 92%. Après le regroupement du corps expéditionnaire, nous devrons détruire le maximum de forces armées et d'installations extro avant de nous translater dans un autre système. Tout vaisseau de la Pax endommagé au-delà de nos capacités de réparation sera abandonné, l'équipage transféré dans d'autres archanges et le croiseur détruit. Il ne faut pas que les extros s'emparent de la technologie de notre propulsion Gédéon, même si elle leur est inutile sans le sacrement de résurrection. La mission devra durer 3 mois standard. Des questions ?
Le père capitaine de Soya leva la main.
Je vous prie de m'excuser. J'ai perdu le contact pendant plusieurs années. Mais je remarque que ce corps expéditionnaire est composé de vaisseaux qui portent le nom d'archanges cités dans l'Ancien Testament.
Oui, père capitaine ?
L'interrompit l'amiral Aldikakti.
Votre question ?
Juste ceci, amiral. Je crois me souvenir qu'il n'y a que 7 archanges cités nommément dans la Bible. Qu'en est-il des autres vaisseaux classe archanges qui doivent participer à l'action ?
2 petits rires fusèrent autour de la longue table, et De Soya constata qu'il avait, selon ses prévisions, réussi à briser la tension. Souriant, l'amiral Aldikakti répliqua
« Nous souhaitons la bienvenue à notre capitaine prodigue et l'informons que les théologiens du Vatican ont étudié le livre d'Enoch et tous les textes apocryphes pour y trouver d'autres anges qui pourraient être promus archanges honoraires, et le Saint-Office lui-même a accordé à la flotte de la Pax la permission d'utiliser leur nom. Nous avons estimé qu'il était opportun que les 7 premiers archanges de classe planétaire soient nommés d'après ceux énumérés dans la Bible et portent ainsi leur feu sacré jusque dans les rangs ennemis. »
Les gloussements se transformèrent en bruits d'approbation, puis les commandants et leurs seconds applaudirent doucement. Il n'y eut pas d'autres questions. L'amiral Aldikakti dit
« Oh, un autre détail. Si vous croisez ce vaisseau… »
L'hologramme d'un étrange astronef flotta au centre de la table. Petit selon les critères de la flotte, ses lignes aérodynamiques laissaient à penser qu'il avait été construit pour pénétrer dans l'atmosphère. De plus, il était doté d'ailerons au voisinage des orifices de fusion.
« Qu'est-ce que c'est ?»
demanda la mère capitaine Stone, souriant toujours de la bonne atmosphère qui régnait dans la pièce.
« Une plaisanterie extra ?»«
Non, » répondit le père capitaine de Soya d'une voix douce et monotone. « C'est la technologie de l'ère du Retz. Un yacht. » Possédé par un individu.
Quelques officiers en second gloussèrent de nouveau. L'amiral Aldikakti coupa les rires d'un geste de sa main épaisse qui traversa le holo.
Le père capitaine a raison,
gronda-t-elle.
C'est un vieux vaisseau de l'ère du Retz appartenant à un diplomate de l'hégémonie.
Elle secoua la tête.
Ils étaient assez riches pour faire ce genre de choses. En tout cas, il possède une propulsion Hawking modifiée par des techniciens extro. Il est peut-être armé et doit être considéré comme dangereux. « Que devrons-nous faire si nous le rencontrons ?»
demanda la mère capitaine Smoke.
« Le capturer ? Non, le détruire à vue. Le scorifier jusqu'à ce qu'il se vaporise. Des questions ?»
Il n'y en eut pas. Les officiers retournèrent à leur vaisseau pour se préparer à la première translation. À bord de la navette qui les ramènerait au Raphaël, Og Liebler parlait aimablement avec son nouveau capitaine des préparatifs du vaisseau et de l'excellent moral de l'équipage, tout en se disant « J'espère que je ne vais pas être obligé de tuer cet homme-là ».